Radio Stuhl. Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Radio Stoub. Eh oui, le Racing a-t-il été vendu? Le Racing est-il sauvé? Jackie Kins est-il notre sauveur? On n'en sait rien, on va en débattre en tout cas, même si on ne sait pas grand-chose pour le moment. Il y a quand même des précisions à apporter. En tout cas, le Racing va continuer à vivre, ça c'est sûr. Voilà, pour en parler aujourd'hui, on a Strotim, on a Houdin, on a Conan. J'espère que vous êtes en forme.
Bah ouais. Ouais, on a un peu diminué physiquement.
Ouais, bah ça c'est cette saison qui a été dure. Hein,
ce tournoi de la Fédé.
Le tournoi de la Fédé qui a laissé des traces.
Non, on l'a évoqué d'ailleurs,
on n'a pas parlé. On n'a pas parlé du tout. Bah on en parlera. On en parlera en fin d'émission. Bah je rajoute au programme la Fédération des supporters et ce match de gala. On n'en a pas parlé à Radio Stoub, il me semble encore. Hein. Donc ce sera
entre les Pun Gothiques.
Ce sera la conclusion de l'émission. Et ce tournoi des supporters qui était quand même le clou de la journée, hein, entre 9h et 13h. On démarre tout de suite quand même avec le Racing Club de Strasbourg qui, semble-t-il, a été vendu. L'info est tombée jeudi en fin d'après-midi, hein, ça a été vite relayé. C'est même le Twitter de RTL hein, qui a un peu confirmé vraiment la nouvelle. Hein. C'est assez étonnant.
Le correspondant d'RTL dans le Grand Est.
Voilà, comme RTL est plus au courant que les médias régionaux. Quoi.
Bah, c'est surtout le type qui était à la conférence de presse et qui a été le plus rapide. Donc,
Ah oui, c'est comme question pour un champion, il a appuyé plus vite sur le buzzer que les autres. Quoi.
Mais le jour où Godin sera sur Twitter, il battra tout le monde.
Il faudra lui expliquer comment ça marche. Donc, là, il sera encore plus au taquet qu'il ne l'est actuellement. Bah voilà, l'actu restante, le club est-il vraiment sauvé? La question qu'on se pose un petit peu.
Mais visiblement, le club, il n'est pas encore vendu.
Oui, il n'est pas encore vendu. C'est qu'un accord de principe, c'est un petit peu, moi, la principale réserve que j'aurais, parce que moi, j'ai lu des réactions un petit peu trop enthousiaste peut-être des supporters qui étaient contents forcément que le club soit cédé, que Hilali soit enfin...
Pas que les supporters.
Pas que les supporters.
Je sais pas si t'as lu l'article de Godin justement aujourd'hui où il expliquait que les joueurs quand ils ont appris ça, ils ont... Enfin c'est comme s'ils avaient fêté une victoire dans le vestiaire, enfin ils étaient contents quoi.
Oh là là, ça c'est le coup de canon libérateur. Voilà, merci Houdin.
Champagne.
Mais c'est vrai que les joueurs bon, étaient déjà très, très impliqués là-dedans parce que déjà Hilali, on sentait qu'il ne pouvait pas l'encadrer. Donc il n'y avait pas. Bon, officiellement, c'est sûr que le discours c'était on est les joueurs, nous c'est le terrain, mais on sentait que dès le départ, Hilali c'était un petit peu le diable. Et là, ça a été une libération visiblement pour les joueurs. Donc, accord de principe, mais est-ce que maintenant ça va se faire vraiment? Est-ce que Hilali va vraiment vendre le club à ce monsieur Greff?
En tout cas, il ne voulait pas le vendre à Citerlé. Ça, on l'a bien compris.
Ça m'a l'air d'être clair.
D'ailleurs, est-ce que quelqu'un sait pourquoi il a une dent contre Citerlé?
Bah, il est jaloux, tout simplement.
Il est jaloux,
C'est de la jalousie, oui.
Comme lui...
Jaloux de la casquette, peut-être, on ne sait pas.
Bah, le simple fait que le mec ait une petite popularité... Voilà, qu'il soit un peu beau gosse, machin, ouais, ça suffit à mon avis.
Qu'il soit montré populaire.
Et qu'il ait une casquette.
Et qu'il ait une casquette.
Ouais. Peut-être que Jafar Hilali n'a jamais eu de casquette dans sa vie. Hein, donc...
Ouais, à l'école primaire, il a pas eu sa casquette.
Il a pas eu sa casquette Chicago Bulls. C'est peut-être un souvenir traumatique. Il s'est volé sa casquette au CP.
Il avait une belle casquette Chicago Bulls, comme tout le monde à l'époque.
Moi j'avais Charles Hornet. Mais une vraie.
Au Pakistan, ils jouent plus au cricket, donc ils avaient des casquettes de cricket, hein, je pense, l'équipe de Islamabad ou de...
Peut-être, ouais, mais il s'est fait piquer.
Voilà. Mais en tout cas, c'est la première fois qu'on va dire que cette fois, la chose semble actée, même si ça l'est pas. Enfin, en tout cas, les commentaires vont dans ce sens-là. Est-ce que Hilali va vraiment vendre le club à Greff? Est-ce qu'on peut dire que ça va se faire ou alors on peut encore craindre un coup de théâtre?
Il y a quatre conditions en fait.
Quatre conditions.
Alors la première, c'est celle dont on a le plus parlé, c'est qu'il faut que les minoritaires acceptent d'abandonner leur compte courant, donc les thunes qu'ils ont déjà injectées. Depuis quelques années. La deuxième condition, c'est qu'il faut que la mairie donne plus d'argent au club que ce qu'elle donnait pour l'instant. La troisième condition, c'est qu'il y a un audit qui est mené en ce moment pour vérifier qu'il n'y a pas de cadavre dans les placards. A priori, c'est Jackie Kins qui fait ce 145e audit du Racing depuis un an et demi.
Et là, après,
il aime bien ausculter.
Oui, il aime bien ausculter. Et la quatrième condition, c'est qu'il faut que ça passe à la DNCG.
Quatre conditions, ben voilà, c'est clair. Hein,
mais qui ne semble pas infranchissable. Il y a quand même une cinquième condition, c'est qu'il n'y ait pas un changement d'humeur d'Hilali.
Aussi, oui. Cela dit, sur la ville, c'est plutôt Citerlé, on l'a compris, le poulain de la ville. Donc peut-être que...
Alors où est-ce que ça pourrait coincer finalement? Dans laquelle de ces conditions ça pourrait coincer? Ou lesquels, hein, ça peut être au pluriel.
Pour moi c'est l'audit et puis les comptes courants, quoi, parce que l'audit à mon avis, même si effectivement il y en a eu beaucoup On sait qu'ils ont planqué quand même pas mal de choses et qu'on en découvre quasiment toutes les semaines. Donc il y a peut-être encore des trucs qui n'ont pas été sortis dans la presse et qui sont pas très jolis. Donc il y a ça. Et la deuxième condition, c'est quand même les minoritaires. Est-ce qu'ils vont consentir à abandonner tous leurs concours?
Donc, Gindor, en fait, il y en a trois.
Deux sur trois, quoi.
Il y en a deux sur trois pour l'instant.
Bah, il y en a un et demi, tu vois, parce que comme d'habitude, Specht s'est pas prononcé. Il a dit ni oui ni non. Comme d'habitude, très prudent, il a dit oui, peut-être, faut voir. Pignatelli, c'est plutôt non. Gindorf a dit oui.
Specht, Specht est quand même le seul où c'est pas son pognon aussi. Hein. Il représente les intérêts de l'or. Alors que Gindorf et Pignatelli, c'est leur fonds propre.
Alors le plus réticent, a priori, c'est Pignatelli qui a quand même déclaré très clairement qu'il n'était pas prêt à couvrir toutes les conneries d'Inali. Est-ce que finalement Pignatelli peut se laisser convaincre ou quelque part, moi je le vois mal bloquer tout le processus juste par sa voix à lui, quoi. Je sens pas, je pense qu'il va être critique, je pense qu'il va mettre des réserves, je pense qu'il va éventuellement exiger certaines conditions, mais bloquer totalement le processus, moi j'ai du mal à imaginer quand même.
Bah, il terminerait avec la patate chaude que tout le monde a essayé d'éviter, c'est-à-dire celui qui aurait donné le dernier coup, tu vois. Alors après, on sait tous qui a amoché véritablement le Racing ces derniers temps, mais personne ne veut être celui qui met ce dernier coup. Donc il serait celui-là, il va l'éviter. Non, je pense que c'est ce que tu disais sur les conditions. Faut lui aménager une porte de sortie, peut-être avec un peu de sous quand même, une petite partie pour qu'il puisse avoir l'air de pas être complètement vaincu, quoi. Il faut toujours réserver une porte de sortie honorable aux gens, quoi.
Bah, faut pas oublier que dans l'absolu, Pignatelli, il a dû mettre autant de sous que Hilali.
Un et demi, je crois, hein, au total.
Ouais.
Enfin, en tout cas, pour entrer dans le club, après, c'est autre chose, quoi.
Pour entrer dans le club.
Et pour en tirer pas grand-chose, quand même.
Bah, pour en tirer le droit de la fermer.
Voilà.
Et donc c'est pour ça qu'il avait râlé à l'époque de Ginesté, c'est pour ça qu'il râle aujourd'hui.
Mais il a toujours été très très râleur, mais à juste titre, parce qu'il s'est exprimé alors que d'autres ne se seraient pas exprimés. C'est aussi quelque part quelqu'un qui a dénoncé souvent des choses alors que d'autres.
Bah pour moi il y a deux moments. Silencieux, quoi. Il y a deux moments, c'est-à-dire que quand c'était sous Ginesté, quelque part, ça me semblait parfois un peu déplacé parce que. Il avait accepté ce statut minoritaire en entrant à Ginesté, il le savait parfaitement. Alors après, ils se sont disputés tous les deux, je pense que c'est un peu la faute des deux, il n'était pas content.
Bah, il avait expliqué que là, ça avait commencé à coincer, c'est
Furlan, ouais.
après la saison de Papin, où Papin se fait virer, ils prennent Furlan sans...
C'est sur Furlan. Ouais.
En fait, personne n'a été consulté au niveau des minoritaires à l'époque, et Ginesté a pris la décision de virer Papin, de prendre Furlan pour 3 ans en plus.
Il était très enthousiaste, justement, il disait que Ginesté pensait vraiment avoir le nouveau Wenger.
Ouais, c'est ça, donc bon, on sait
voilà.
Ce qui s'est passé ensuite. Ouais.
Mais bon, c'était en bas. Avec Ginesté, donc quelque part il était censé savoir dans quoi il s'engageait, alors qu'avec Hilali, ouais, clairement on peut pas lui donner tort parce qu'il a constamment dénoncé ce qui se passait, quoi.
Donc ouais, puis c'est un peu le dindon de la farce, hein, comme je disais, je faisais une métaphore assez imagée tout à l'heure, je disais, je sais pas si vous vous souvenez, le début du générique de Tom Sawyer,
c'est la.
Et en fait, ils sont tous à la queue leu-leu. Genre dans une espèce de gigantesque orgie. Et en fait, Pignatelli, c'est un peu celui qui est devant. C'est celui qui se fait plus ou moins entubé par tout le monde, hein, dans cette histoire.
D'accord.
Et qui n'en peut personne, alors.
Et justement, parce que lui...
Il n'a pas le droit, lui, là.
Non, il n'a pas le droit. Non seulement, comme je disais, lui, il a dû mettre autant de sous que Hilali. Mais en plus... Lui, il a eu aucun pouvoir, il a eu aucun pouvoir de décision, il a juste le droit de payer les pots cassés de ses prédécesseurs.
Moi, je me souviens qu'à une époque, mon cher Conan, tu étais plutôt critique envers... Là, je te sens plus...
Pour les raisons qu'a exprimé Schrotti, mais c'est vrai qu'avant, il était dans une situation, mais c'est lui qui l'a accepté. Ben, d'ailleurs, il l'a dit lui-même sur l'émission à RBS, hein, que j'avais écouté.
Bon, c'est il y a un an, oui.
Il y a un an déjà.
C'était déjà il y a un an.
Il l'a expliqué, donc lui, il l'avait fait de bonne grâce. Donc c'est vrai que ça m'avait paru un peu déplacé, hein, ses critiques à ce moment-là. Bon, ceci dit, le fait était qu'effectivement, c'est quelqu'un qui a investi, c'est quelqu'un qui n'a jamais eu droit au chapitre, et c'est quelqu'un aujourd'hui à qui on demande de payer, sachant que parallèlement, Hilali s'en sort à très bon compte.
Ça, on en parlera tout à l'heure.
Ouais, c'est ça qui est le pire, c'est que d'un côté, on cède au chantage.
Oui.
Parce qu'en fait, Hilali, du coup, a reçu de l'argent pour un truc qui valait rien, concrètement, donc c'est du chantage. Du chantage affectif, mais du chantage.
Alors qui valait rien d'un point de vue commercial, mais qui valait quelque chose, bah, c'est là-dessus qu'il a joué d'un point de vue affectif.
Bah, c'est ce que je dis, chantage affectif, mais en tout cas, bon, c'est un chantage. Bon. Donc Hilali a touché de l'argent, et lui, il a une traite apparemment qui est en bonne et due forme de 250 000 euros sur l'argent qu'il avait investi, qu'il devait récupérer, c'est écrit, et que pour lui, l'instant, il n'a rien récupéré. Donc tu vois, Hilali qui a saccagé le club... et qui a réussi à le vendre 1,5 million alors que c'est une coquille vide, et toi, t'as une traite légitime de 250 000 euros et on peut pas te la payer. Ouais. C'est quelque part, ça doit faire mal.
C'est immoral, c'est immoral.
Même si t'aimes, même si t'adores le club, que t'es prêt à tout pour lui, ça fait quand même un peu mal.
Joe l'Indien, le que vérifie derrière.
Joe l'Indien, il était terrifique. Je me souviens de la musique quand t'avais Joe l'Indien qui apparaissait,
ça
c'était
une musique.
Moi ça me glaçait le sang, moi. L'arrivée de Joe l'Indien...
Attention, quand je voyais...
Terrible.
Des... C'est la musique que je me passais quand je regardais des photos de Hilali. Hein.
Alors une autre condition...
Ouais, il était pas indien, il était pakistanais. Mais...
Alors une autre condition que tu as énoncée, Strotim, c'est la mairie. La mairie va-t-elle encore accepter de donner de l'argent? Alors elle l'a fait il y a un an en acceptant d'acheter les bâtiments du centre de formation à Hilali, au Racing.
Qu'est-ce qui reste comme levier à la mairie pour mettre de l'argent dans le club?
Bah la subvention, ils payent une subvention d'image, donc ils achètent des encarts sur les maillots et tout ça, enfin, qu'en fait,
la Ligue de Strasbourg,
qu'ils achèteraient pas normalement, parce que les retombées en termes d'image valent pas l'argent que ça vaut, donc c'est une subvention plus ou moins déguisée.
Il y a le loyer du stade aussi, hein.
Il y a le loyer du stade, et puis il y a la subvention qui est versée au centre de formation. A priori, c'est surtout là-dessus qu'ils veulent jouer, quoi, c'est-à-dire qu'ils veulent plus de sous. En fait, ils veulent que le centre de formation soit payé complètement
par la Ligue. Ça a posé débat sur le Schlup, ça, cette histoire.
Oui, c'est vrai qu'il y avait une intervention de je sais plus quel joubiste qui disait que qu'il était scandaleux réclamer encore de l'argent à la mairie. Si tu achetais un truc, tu assumes par tes propres deniers en quelque sorte. Ouais. Et quelqu'un d'autre qui disait que à contrario, finalement, pas illogique de demander un peu un coup de pouce à la mairie, sachant que quelque part c'est un peu le rachat providentiel. Parce que là, sinon, on est tout droit vers
le bilan. Hein. Comme ça a été dit, hein, si on a un greffe, il rachète quelque chose qui ne vaut rien. D'un point de vue matériel, et qui vaut quelque chose d'un point de vue affectif, et quelque chose qui est rattaché à la culture de Strasbourg finalement. Donc c'est dans ce sens, moi ça me paraît pas illogique que cet investisseur il mette la main à l'appart, probablement à perte. Moi j'ose espérer qu'il n'y a pas une magouille derrière, mais voilà, en théorie ça serait ça, mais il dit moi je fais l'effort, mais c'est aussi au pouvoir public de faire l'effort.
Bah, sachant qu'avant ils ont fait l'effort pour Hilali, je vois pas pourquoi maintenant ils feraient pas l'effort pour un autre mec. Hein,
oui. Parce
que, sachant qu'il n'y a pas pire qu'Hilali, si on prend ça un petit peu comme axiome, finalement il n'y a pas de problème à ce niveau-là, je pense. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, ou d'un...
Je suis pas tout à fait d'accord, parce que la greffe, il revient, et puis il dit, il faut que les minoritaires lâchent leur droit de préemption. Donc finalement, est-ce que greffe, il a les moyens de ses ambitions? Je suis pas sûr, parce que s'il a besoin des autres et de gratter des millions, je pense que ça commence assez mal, quand même. Et s'il a en plus besoin de la ville et d'argent public, je sais pas, on peut se poser des questions. On se posait les mêmes questions sur la surface financière d'Hilali, quid de celle de greffe?
Ouais, quid, ça c'est une mystère. Moi, il y a autre chose, c'est le fait que le Racing soit renfloué par la ville directement ou indirectement, c'est un grand classique de l'histoire du Racing depuis 40 ans maintenant. Dès les années 50, ça commence. Dès qu'il y a des périodes sportivement un peu difficiles, typiquement le club est dans le nez financièrement. Et le bouquin de Pierre Perny sur les 100 ans du Racing est très bien là-dessus. À chaque fois, tu as 4 ou 5 pages qui t'expliquent comment à chaque fois, tu as des subventions qui viennent sauver le...
Mais est-ce que ça se passe pas comme ça aussi ailleurs?
Je pense à Strasbourg, c'est vraiment extrêmement régulier et extrêmement paroxystique. Je pense que le seul exemple comparable, c'est Marseille.
Ah bah, Marseille de l'Est,
la mairie de Major.
C'est Marseille, le Strasbourg du Sud.
Le Strasbourg du Sud, plutôt, ouais.
Avant de vendre le club à Dreyfus, Jean-Claude Godin s'est coupé un bras pour enflouer l'Olympique de Marseille, qui était vraiment... Enfin, si ça n'avait pas été l'Olympique de Marseille, c'était mort, quoi. Ouais. Et là, c'est un peu ça aussi. C'est quand même le Racing. Malgré tout, c'est quand même un club qui suscite un...
Mais c'est dire l'aura que ça représente.
Ça aurait été un l'étape ou Saint-Brieuc.
Voilà.
Le club était mort.
Même négativement, ça suscite quand même une attention, quelque chose, donc on ne peut pas le laisser tomber. Donc à chaque fois, la mairie finit toujours par cracher au bassinet. Donc elle finira peut-être aussi une fois de plus par cracher au bassinet.
Alors une autre question...
Ce qui ne me choque pas, encore une fois.
De toute façon, c'est un calcul. Hein. Après, on sait que celui qui a porté ce dossier aussi depuis le début, c'est Fontanelle. C'est un peu le type qui monte dans la majorité municipale.
Oui, parce que la mairie s'est impliquée aussi. Donc c'est pas comme si maintenant on demandait à cet acteur qu'est la mairie de filer de la thune alors qu'il n'y a pas d'implication préalable.
Ça, c'est coûte. Pas faux. Ouais. Ils se sont mouillés, donc maintenant, c'est vrai que...
Il faut assumer aussi
du côté de la mairie. Assurer,
voilà. Alors, autre question importante, c'est quid de tous les procès en cours. Alors, on chiffrait ça à peu près à 15 millions. Enfin, Godin, il a fait la liste dans l'Alsace, il y a à peu près 15...
Dont 8 millions pour...
Pour Chilavert, oui. Alors, est-ce que ça a été pris en compte par greffe? Est-ce que il faut vraiment autant d'argent actuellement en prévision, en provision pour... pour s'occuper de Racing, ou alors finalement bah, l'investissement, un investissement raisonné, raisonnable suffit. Est-ce que vraiment 15 millions c'est. On parlait aussi de bah, Wenger dans cette interview à Alsace 20 disait aussi, selon lui, hein, qu'il fallait au moins 15-20 millions pour.
Bah, 15 millions plus des primes à la
Racing.
Ouais,
c'est-à-dire
que si on monte en Ligue 2. On doit donner je sais pas combien, je crois 1,6 million à Ilali, plus de l'argent minoritaire. Et si on monte en Ligue 1, je crois qu'on donne de l'argent à Ilali, on donne de l'argent à Ginesté. Je crois que c'est 1 ou 2 millions pour Ginesté.
Ouais, ah
ouais. Bon, je crois que c'est 2 millions. Hein.
Ouais, il y a des clauses, Ginesté ouais, a eu ces clauses-là, ouais, pour une sorte de stade ouais. aussi.
Et si un nouveau stade, pareil.
Il y a de l'argent pour Ginesté, ouais.
Alors combien faut-il d'argent pour s'occuper du Racing? Quelle est la surface minimum actuellement? Qu'est-ce qu'il faudrait mettre sur la table?
Bah, ton estimation elle est juste, hein, mais c'est juste que c'est étalé sur le temps, ça peut être étalé sur 3 ou 4 saisons. Là présentement a priori il faut, comme l'an dernier, 4 ou 5 millions pour couvrir le déficit d'exploitation de la saison 2011-2012. Après, à chaque fois qu'il va y avoir des fins de saison, en gros, le Racing va se retrouver avec des trucs en plus à payer de son déficit d'exploitation qui ne va pas disparaître. Ça peut être des procès au prud'homme, ça peut être des primes à payer. Donc à chaque fois, il va falloir sortir des thunes. Donc c'est autant de joueurs que tu ne pourras pas recruter ou au contraire de joueurs que tu devras vendre. Donc en fait, il faudra remettre au pot régulièrement.
C'est pour ça que c'est aussi, accessoirement, c'est complètement débile ce qu'a fait Ilali de ne pas signer les jeunes du centre de formation. Parce que c'est vrai que ça, c'est une manne... Même si c'est un crève-cœur hein, de vendre des jeunes, ça peut être une manne financière intéressante. Hein. Je veux dire, si un Rosenfelder, qui est un grand espoir du foot français hein, en général, avait éclaté sous le maillot du Racing, bah, voilà, on aura...
Bah, c'est Mozart de la finance qui a fait ses calculs, voilà, hein, on va pas revenir là-dessus.
Ouais, c'est peut-être pour nous emmerder aussi.
Hein, oui, enfin, il a perdu beaucoup d'argent aussi lui-même hein, en faisant ça. Enfin, pas y revenir trop sur Ilali, simplement...
Mais il y a quand même un truc, je vais quand même revenir sur Ilali, c'est là qu'on voit qu'il est débile ce mec, qui est complètement con. Quoi. Malgré toutes les conneries qu'il a fait, en attendant, il y a une équipe qui était compétitive, qui a été montée avec un entraîneur qui tournait bien. Je suis Ilali. Je sais pas, je vois que ça se passe comme ça, ça se passe très mal. Je sais pas, je remets encore un petit peu dans le pot pour monter en Ligue 2, pour revendre le club en Ligue 2.
Bah oui, mais c'était...
Et là, je pense que j'aurais pu récupérer le double, le triple de ma mise de départ.
Et je crois qu'il comptait sur ses méthodes, de la théorie du chaos pour monter en Ligue 2.
Oui, bah, il a joué sur la stratégie du pire, surtout. C'est-à-dire que c'est ce qu'on a dit, il a poussé le chantage jusqu'au bout.
Il
a réussi.
Ben oui, il a échoué parce que pas pour la montée en Ligue 2. Hein.
Ah, pour la montée, oui, pour la montée en Ligue 2, il a échoué.
Si on prend en compte le raisonnement de Conan, c'est ça, c'est...
c'est un raisonnement normal.
Ouais.
Voilà.
Ouais, c'est bizarre. Vraiment, c'est ce que
Ginesté a fait. C'est pour ça que j'ai commencé mon propos, ben, c'est là qu'on voit qu'il est complètement con.
Oudin. Ginesté l'a pas fait non plus à l'époque où Furlan réclamait absolument un attaquant pour rester en Ligue 1. Et si Ginesté avait remis un petit peu d'argent au pot avec un attaquant, peut-être qu'on n'en serait pas là aujourd'hui. Donc sur ce point-là, il a pas eu le nez beaucoup moins creux que celui d'Ilali. Hein.
Il l'a eu son attaquant.
Bah non, il réclamait absolument un attaquant.
Bah il a eu Moulenga.
Alvaro Santos.
Non, pas au Mercato d'hiver.
Moulenga c'était là, je crois.
On n'avait rien recruté au Mercato d'hiver.
Alvaro Santos. Non.
On a rien recruté à ce Mercato d'hiver là, rien du tout. On était sur Ferret, de nouveau, mais il n'y avait pas de thunes.
Il
voulait pas remettre.
Il fallait pas remettre.
Alors la question que tout le monde.
Ouais, mais c'est pas pareil. Là, tu peux pas dire que ce soit pareil, c'est à l'époque. C'est vrai que quand on se remet en perspective, bon c'est facile de juger a posteriori, mais c'est vrai qu'en décembre 2008, on est en...
2007.
C'est 2000, putain, ça passe vite. Hein. En 2007, on est quoi? On est 9e du championnat.
On était un peu plus bas à un moment quand même.
Ouais, puis ça avait remonté un petit peu.
On était il fallait pas s'enflammer, machin.
Il y a eu une période...
Personne pensait sérieusement qu'on allait descendre à ce moment-là.
C'est vrai.
Ça, c'est vrai. Mais la question que se pose tout le monde actuellement, bah, c'est est-ce qu'effectivement le Racing va être vendu à Greff? Est-ce qu'effectivement le Racing est sauvé? Alors juste, oui ou non, m'expliquez un petit peu ce que vous en pensez. Est-ce qu'il arrive à vendre? Est-ce que les cinq conditions vont être remplies? Qu'est-ce qui va se passer? Ou est-ce que est-ce qu'on va effectivement déposer le bilan? Un avenir finalement très proche, mais qui pose pas mal de questions et qui laisse pas mal de doutes. Srotim?
Bah, à mon avis, ça va se faire, mais il y a une chance non négligeable que ça plante. Hein. Au dernier moment, sur un point de détail à la con qui fait achoper le truc. Mais a priori, le plus dur a été fait, c'est-à-dire de trouver cet accord de principe et qu'Ilali trouve un type qui à la fois lui convienne et accepte ses conditions, ce qui était quand même pas donné. Ouais. Donc voilà, mais après il y a toujours ces détails, et puis on sait pas exactement ce que la DNCG va faire, on sait pas ce que Pignatelli va dire et tout. Moi, à mon avis, ça va être oui, mais il va encore y avoir quelques difficultés et quelques chaos, ça va pas être aussi simple que ça.
Oudin.
Bah après, la question c'est, est-ce qu'il faut faire confiance à ce monsieur Greff?
Alors ça, c'est la prochaine rubrique.
Prochaine rubrique, d'accord.
Mais sur la vente, est-ce que...
Sur la vente, ouais, je pense que ça va se faire. Moi, juste sur les modalités de la vente, ce qui est marrant, c'est que à l'époque, Citerlé avait fait une offre de 1,6 plus 1 million en cas de montée en Ligue 2 dans les 2 ans, plus un nouveau million en cas de montée en Ligue 1 dans les 4 ans. Parce que Ilali avait refusé à l'époque, le point d'achoppement, c'est ce que Godin avait écrit dans l'Alsace, c'était que Ilali demandait une limitation dans la durée. Et là, aujourd'hui, le montant, c'est 1,6 plus 1,5 sans limitation, plus 1,5 sans limitation. Donc, c'est-à-dire qu'Ilali, il a gagné sur les deux fronts. Il a gagné à la fois sur la question de la durée et sur le montant. Parce qu'il gratte 1 million de plus, quoi. Et c'est quand même... Il y a quelque chose qui me dérange.
Il y a quelque chose qui cloche.
Ouais, il y a quelque chose qui cloche. Ouais.
Conan.
Bon, bah, la vente, elle va se faire.
Oui.
Pour moi, elle va se faire. Maintenant, est-ce que le Racing est sauvé? Ça, je suis pas... que la vente se fasse, je pense que ça va se faire. Que ça soit une bonne chose que Ilali se casse, ça c'est, ouais. Voilà, c'est ce que tout le monde a. Ouais. Maintenant, je sais pas si t'as déjà lu cet album de Tintin, tu sais, le...
Ah, j'ai lu tous les albums de Tintin plusieurs fois.
Alors Tintin les Picaros,
ah, oui.
Tu te souviens de la première image?
Ta toute première, rafraîchis-moi la mémoire.
Un téléphone, non?
Non, en fait, c'est au tout début. Non, ça doit pas être la première image, mais au tout début, tu vois, ils arrivent dans le pays sud-américain. Et tu
au
vois,
San Theodoros.
Au San Theodoros, effectivement. Et tu vois, en fait, tu vois des favelas. Ouais. Et tu vois deux soldats qui sont un peu sympas,
ah,
sous l'oppression du général Tapioca, qui patrouille, en fait, au milieu des favelas.
Et t'as pas...
Et après, en fait, après, donc t'as la révolution qui se fait, le dictateur, le méchant dictateur, il est parti, il est renversé, c'est la fête, tout le monde est d'accord. Et la dernière image de la bande dessinée, tu vois la même favelas, mais avec deux soldats du général Alcazar qui patrouillent.
Et qui font exactement la même chose.
En fait, t'as juste les uniformes qui ont changé.
Ouais.
Donc voilà, est-ce qu'on va pas se retrouver dans cette situation finalement?
Donc la question est de savoir, est-ce que Greff...
Est-ce que Greff égale Ilali?
Est-ce que Greff est mieux qu'Ilali? Est-ce que Greff peut faire pire qu'Ilali? Ah bah justement, c'est
Non mais ça montre qu'on n'est peut-être pas sauvé. Maintenant, est-ce que Greff va faire du Ilali? Je pense pas quand même, parce que Greff a l'air quand même d'être quelqu'un de normal.
Mais je crois que tout le monde est content et soulagé que Ilali se casse. Ça, c'est plus
indéniablement.
Alors ça, c'est, je crois qu'on est tous d'accord là-dessus. Là, c'est le consensus général.
Les joueurs, le club,
tout le monde, la ville, tout le monde, on est content qu'Ilali se casse. Maintenant, c'est vrai qu'on aurait, en cas de signature définitive, un nouvel actionnaire, Sébastien Greff. Alors il y a le père aussi, Bernard Greff. Alors quelques précisions peut-être sur l'identité de la famille Greff, hein, puisqu'on parle de la famille Greff, qui serait à la tête du Racing à partir de très bientôt. Qui sont-ils? Il y a quelques rumeurs. Alors je sais pas si
c'est plus que des rumeurs.
Bah, on va en parler. Moi je suis très naïf, je ne sais rien, donc je me renseigne. Je sais pas qui a envie de me renseigner sur Greff.
Bernard Greff, donc c'est un ancien joueur de foot déjà.
Oui.
Donc qui a joué à...
Donc ça c'est le père. Hein.
C'est le père, voilà. Donc qui a 62 ans, je crois, quelque chose comme ça. Qui a joué à la SS de la bonne époque, c'est-à-dire à l'époque où la S Strasbourg jouait en 3e division au Tivoli, donc un niveau qui était assez bon à l'époque. Il a brièvement joué en pro à Ajaccio en D1 dans les années 70. Et après il est resté dans le sud et plus sur la Côte d'Azur et il s'est lancé dans la vente par correspondance.
La vente par correspondance.
Voilà. Et donc,
les trois Suisses, quoi.
Les trois Suisses, mais c'est un peu plus agressif, un peu plus filou, si vous voulez. Et donc, il s'est fait épingler à plusieurs reprises, parce que bon, enfin, voilà. C'est ce qu'on disait aussi hors antenne, on a tous reçu, à l'époque, quand on était gamin, le catalogue des trois Suisses avec la lettre qui disait qu'on avait gagné une croisière... aux Maldives ou un voyage en Égypte aux pyramides et tout, on était super contents de montrer ça à nos parents qui nous disaient ouais non mais en fait pas vraiment. Mais Greff faisait ça mais en pire, c'est-à-dire on ciblait des gens relativement faibles et on leur faisait croire qu'ils avaient gagné un gros lot, 100 000 euros, enfin francs à l'époque.
C'est l'ancêtre des spams qu'on reçoit pour élargir notre pénis quoi.
Exactement.
D'accord.
voilà, et donc, euh, et Et donc en visant des gens assez faibles, tu peux les entraîner dans un système où ils croient qu'ils vont gagner quelque chose, mais il faut qu'ils achètent quelque chose pour rester
donc
dans
un engrenage qui consiste à plumer des gens, quoi.
Qui consiste à plumer des gens en leur vendant la possibilité de gagner un gros lot, mais en échange ils doivent acheter des produits à la con dont en fait ils n'ont pas besoin et vont leur vendre un peu trop cher. Comme toujours dans la matière de commerciale, la frontière est parfois un peu mince entre la bonne astuce du vendeur qui réussit à t'entuber parce que c'est un bon vendeur et l'escroquerie caractérisée. La justice a décidé à plusieurs reprises quand même avec M. Greff que c'était de l'escroquerie caractérisée, de la publicité mensongère.
Donc M. Greff a été condamné, quoi.
M. Greff a été condamné à plusieurs reprises.
Père,
il a eu un procès assez retentissant à Grasse avec plusieurs centaines de plaignants.
Mais en quelle année ça ?
99.
99, donc c'était il y a 12 ans.
Il y a 12 ans, il a été interdit de gestion pendant 5 ans, c'est pour ça que quand ils sont revenus déjà au Racing en 2003, c'était son fils qui était à sa place, parce que le délai des 5 ans n'était pas expiré. Et donc voilà, et le fils apparemment, on ne sait pas exactement trop ce qu'il a fait, à part qu'il a été aux États-Unis faire des études de management et qu'il a joué au tennis et qu'il a représenté Monaco en Coupe Davis. Et voilà, et et le dernier détail, c'est que...
Comme Jean-René Lisnard, alors.
Voilà.
Mais c'est qui ?
Bah c'est Saint Monégasque qui représente.
Ça me dit quelque chose, ouais.
Mais Monaco a une équipe de coupe.
Ouais. Bah c'est un état. Ils ont une équipe de bobsleigh aussi.
Oui, ça je sais.
Il y a un mec qui s'est marié d'ailleurs ce week-end.
Elle a pleuré.
Elle a pleuré, c'était beau.
Mais j'ai regardé d'ailleurs, hein. Tu sais, je suis bloqué depuis une semaine chez moi.
Ouais, t'as regardé. Mais alors tu crois qu'elle s'est vraiment barrée ou pas ? Alors la fameuse rumeur comme quoi elle était à l'aéroport de Nice et qu'ils l'ont récupéré au dernier.
Ah, elle est partie à l'aéroport quand même.
Bah deux jours avant apparemment, il n'est pas sa sortie. Il y a eu un clash.
HS.
Voilà, la récréation est terminée, on
recalera. Donc elle n'aurait pas pleuré de joie en fait.
Bah peut-être. Tu sais, les Grimaldi, c'est spécial.
D'accord.
Mais pour revenir sur Greff, en fait, le dernier détail, c'est que quand il a été condamné, évidemment, ce monsieur, comme par hasard, était en situation de faillite personnelle. Donc il pouvait pas indemniser ou très peu indemniser ses victimes. Et après, on a le fils qui repart avec des sociétés au Luxembourg.
Mais tel père, tel fils ou...
Ce qui pue quand même déjà là-bas.
Ah non, quand même des sociétés au Luxembourg, il y en a plein qui sont...
Oui, il y en a plein qui sont réglo.
Mais il y en a plein qui ne le sont pas.
Ouais. Ouais, pas qu'au Luxembourg.
D'accord. Donc
au Luxembourg, c'est quand même...
Donc voilà. On dit pas ça pour... moi, je veux pas non plus jeter l'opprobre et des soupçons...
Pas de présomption de culpabilité.
Hein. Voilà, on n'est pas non plus des procureurs,
Des procureurs américains qui veulent se faire réélire.
Ouais, voilà, exactement. Simplement, c'est un élément d'information qui est public, hein, qui est des articles de presse, de journaux reconnus là-dessus. Donc voilà, c'est juste pour poser un peu le tableau.
Donc ça, est-ce que, à titre personnel, ça vous inquiète ? Toutes ces informations qu'on savait un petit peu, parce qu'on a lu ce qui se passait sur le forum, on a parlé avec Strotip, qui nous a déjà expliqué, là on a fait semblant de ne pas être au courant, mais on savait déjà. Non, mais ça vous inquiète, vous, de savoir
oui
ça ?
Oui et non.
Oui et non, allez, comment ?
Oui et non.
Explique-nous.
Bah oui, c'est inquiétant, parce que bon, ça jette un doute sur la caution morale de ces gens-là. Forcément, hein. Maintenant, faut dire aussi que c'est des gens on sait qui c'est, on sait d'où ils viennent. C'est des gens qui gravitent autour du Racing depuis de nombreuses années. Déjà en 2002, 2003, 2004, ils étaient là, les greffes. Hein.
Qu'est-ce qu'ils faisaient ?
Oui, c'est intéressant. C'est vrai, je voulais poser la question aussi, mais qu'est-ce qu'ils faisaient déjà là en 2002, 2003, 2004
En 2003, ouais. Le club a été repris par un groupe à l'époque dans lequel il y avait le Gindorf. Greff qui était le deuxième actionnaire le plus important. Et il y avait aussi après des plus petits actionnaires, Ginesté, Marc Keller, Patrick Adler, Schmidt. Mais Greff était un assez gros actionnaire, il avait 30% du groupe qui a repris le Racing à l'époque à McCormack. Sauf qu'ils se sont barrés au bout d'un an parce qu'ils commençaient à intervenir dans les choix de Marc Keller. Et à l'époque.
Ils sont engueulés avec Keller en fait.
Voilà. Et la majorité des actionnaires se sont mis du côté de Keller. Et donc les Greff sont partis.
Est-ce qu'ils ont eu raison de partir ? Parce que quelque part, Marc Keller, là aussi, c'est une personnalité qui maintenant est controversée à Strasbourg, parce que il y a les pros, il y a les anti, et sur le Stoub, il y a pas mal d'anti, quoi.
Ouais, il y avait pas mal d'anti à l'époque.
Maintenant, je pense
qu'il y en a pas mal qui sont nostalgiques de l'époque de Keller, même si on est descendu en 2006. Moi, je reste persuadé que 2005-2006, ça reste un gigantesque bad beat. Hein.
Ouais, qui me disait ça. Je sais pas si c'était RBS, mais...
Tout part de là, hein. C'est... Avec l'effectif qu'on a en 2005-2006, c'est extraordinaire qu'on descende.
Je crois que c'est Godin qui disait que... Alors, je suis pas sûr, là, c'est vraiment conditionnel, parce que j'ai pas la certitude.
T'as vu tellement de monde.
Mais y a, je crois que c'est lui qui disait que selon lui, enfin c'est la personne en question, le seul qui a une politique sportive, c'était Marc Keller finalement, dans un passé récent. Quoi.
Ça c'est vrai, ça tout le monde le reconnaît. Enfin, Duguay Pérou l'avait expliqué aussi quand il était à la Fédé.
Alors c'est quand même le béaba d'avoir une politique sportive quand tu t'occupes d'un club de foot. Hein.
Sauf que Marc Keller il avait une énorme faiblesse, c'est qu'il voulait être président de club sans être actionnaire. Ouais. En fait, officiellement il était directeur général, mais de facto il était président du club, donc il décidait tout. C'était vachement plus qu'un simple directeur général. Et en fait, il voulait un peu faire la pluie et le beau temps et décider tout seul, alors que forcément il y a des actionnaires derrière. Les mecs, même s'ils sont moins compétents en matière de foot que Marc Keller, ce qui est fort possible, tu peux pas les empêcher à partir du moment où c'est leur pognon d'avoir un avis à donner. C'est pour ça que ça a clashé avec Ginesté, c'est pour ça que ça a clashé avec les greffes. Et là-dessus, j'ai plutôt tendance à donner raison aux greffes, malgré tout ce que j'ai dit avant, qui est plutôt à leur débours. Là-dessus, que les mecs veuillent s'en mêler un peu, ça me semble pas complètement fou. Ouais. Que les autres en aient profité pour les dégager à ce moment-là, parce que la greffe, pour s'en faire mauvais jeu de mots, avait pris, le club avait été repris, il recommençait à se rebecter un peu, donc c'était le moment de se débarrasser des greffes qui sentaient un peu le soufre. C'est possible aussi, donc ils se sont tous mis avec Marc Keller, sauf qu'après, le même clash s'est produit avec Ginesté 2 ans plus tard. Donc,
Mais je me souviens qu'à l'époque, j'avais même des discussions avec des gens qui étaient proches des informations qui circulaient au sein du club, qui disaient qu'ils étaient inquiets justement de l'influence que prenaient les greffes à l'époque en 2003. Ils disaient, je cite, ça calmait.
Ça calmait.
Ouais, ça calme, quoi. Au niveau justement du pédigré de ces personnes et du fait que justement que c'est eux qui voulaient diriger le Racing. Quoi.
D'accord. Alors pour revenir à la question que j'ai posée, ça vous inquiète ? Enfin, ça t'inquiète l'histoire du père condamné, du fils.
Forcément, c'est inquiétant. Forcément, c'est inquiétant. Maintenant, je me dis, ça, déjà vu les quelques déclarations dont on a eu le droit. Vu la démarche, en fait, ils vont rencontrer les minoritaires, ils vont rencontrer les joueurs, là il y a Sébastien Greff qui va se rendre à la Méno lundi. Voilà, ça me paraît être le comportement de gens normaux qui ont envie de présider le club, ce qu'on n'avait pas.
C'est pas ce que Pignatelli dit, hein, parce que via le Facebook du groupe de supporters là, pour la reprise, d'ailleurs canal de communication un petit peu particulier, mais enfin passons. Pignatelli dit qu'il attend, je crois qu'il y avait un poste encore cet après-midi, pour dire j'attends toujours que Sébastien Greff m'appelle. Donc effectivement c'est ce qu'on a communiqué, que Greff allait venir pour rencontrer tout le monde, joueurs, salariés, qu'il a déjà appelé Canosi pour calmer tout son petit monde, mais Pignatelli en attendant, il sait pas trop ce qui va se passer. Donc à relativiser.
Bah, on verra demain déjà.
On verra demain. Ouais.
Un petit mot, Strotim aussi, est-ce que ça t'inquiète, ça te passe au-dessus ?
Moi je suis pas rassuré, bon à mon avis, on est typiquement dans le cas de gens qui ont un peu de pognon et à ce moment-là, peu importe comment ils l'ont eu, mais ils ont un peu de pognon, ils ont envie de s'amuser avec un club de foot. Bon bah il y a plein de gens qui achètent des clubs comme ça. Genre, le président d'Angers aussi, ça a l'air d'être un sacré loustique.
Oui, mais ils ont envie de s'amuser.
C'est un jeune lui. Hein.
C'est un jeune, mais c'est un sacré loustique aussi. Là, il est aussi au tribunal, ça l'a pas empêché, ça a pas empêché Angers de tenir à peu près la route depuis 4-5 ans.
Bah, le plus célèbre qu'il y a eu, c'est Bernard Tapie finalement.
Bernard Tapie aussi.
Donc, oui, mais ils ont envie de s'amuser, mais ils étaient déjà là, comme dit, il n'y a pas longtemps, donc ils sont de la région, quoi.
C'est, ah non mais ça, je pense qu'il
y a quelque chose d'autre que des gens qui arrivent de nulle part qui ont envie de s'amuser à la Cali, quoi.
Je pense que c'est des amoureux du club.
Ah bah mais ils ont authentiquement envie de que ce soit le Racing, c'est à pas n'importe quel club de foot, parce qu'avec la thune qu'ils ont mis déjà, ne serait-ce que les 1,6 million, ils pouvaient s'acheter d'autres clubs, hein. Peut-être même en Ligue 2, ils pouvaient aller s'amuser, ou dans le championnat belge, ou j'en sais rien, mais donc non, c'est, il leur faut le Racing, parce que je pense qu'il y a effectivement un lien affectif d'identification, puis de statut aussi, hein. Quand t'es le président du Racing, t'es pas n'importe qui. Hein.
Bah, si on prend les greffes au-delà de ça, si on fait une photographie à aujourd'hui, bon, il y a quand même quelques... On peut se poser quelques questions quand même. Bon, alors déjà sur les montants. Bon, déjà quelqu'un qui fait affaire avec Hilali, ça veut dire qu'il est d'accord avec Hilali. Bon, moi je trouve ça louche, en passant.
À un moment donné, t'es obligé.
Mais je sais pas, j'aimerais bien savoir quel intérêt, parce qu'il y a quand même ça, ces gens-là, amoureux de l'Alsace, du Racing, je sais pas trop, c'est des gens qui ont fait des affaires dans le business.
C'est des sportifs, hein.
Ouais, c'est des sportifs, mais c'est pas des philanthropes non plus, donc... Donc il y a un intérêt.
Il y a ce côté, le président du Racing, on en revient toujours à la vieille maxime un peu, un peu stupide mais qui est pas forcément fausse, le président du Racing c'est comme le maire quoi, c'est un côté symbolique qui au-delà de la fonction très quotidienne quoi, c'est symbolique quoi, ça tu rayonnes sur une région, on parle de toi dans les journaux.
Ils ont peut-être conscience de cette dimension symbolique, ce que n'a jamais eu conscience Ilaline.
Ouais mais Pignatelli en est revenu apparemment de cette dimension, parce que s'il a mis son million là, c'est que justement, moi ce que je dis toujours c'est qu'un club de foot, l'intérêt c'est d'aller distribuer des cartes de visite en loge, donc il voulait certainement avoir des contrats avec la ville ou avec d'autres gens. Bah si aujourd'hui il réclame et qu'il préfère récupérer son million, et alors on lui met sur le dos qu'il veut faire capoter l'affaire, non.
Bah non, d'accord, c'est que
il a un retour sur investissement qu'il attend, il l'a pas eu.
D'où la métaphore sur Tom Sawyer. Lui c'est vraiment le nom de la force.
Mais d'où à la base qu'il y avait quand même il y a un intérêt. Au-delà de l'amour du Racing.
Mais bon toi tu penses que c'est l'amour du Racing, toi tu penses quelque chose au-delà.
Après il n'y a pas une raison, je pense qu'il y a un ensemble de raisons. Mais c'est vrai que je pense que l'intérêt sportif et l'intérêt de ces gens pour le Racing existent. De toute façon, c'est clair. L'amour, après, il n'y a peut-être pas que ça.
L'amour peut être intéressé. Je veux dire, c'est ce qu'on disait, c'est la dimension de statut, clinquant, on parle de toi dans la presse. Pour peu que tu sois un peu mégalo, c'est quand même le cas de beaucoup de chefs d'entreprise, c'est quand même pas mal d'être le président du Racing, t'es un personnage important.
Oui. Et pour faire.
Et tout le monde se demande ce que tu penses, est-ce que tu vas dire, est-ce que machin.
Tous les jours on va parler de toi
sur les regards sont braqués sur toi, quoi. Ouais, ce qu'a pas pu supporter Ilali quelque part aussi.
Ilali, il a un peu fait le. Vis-à-vis de ça, il a un peu fait le dark timide, tu vois. Je sais pas si les gens connaissent, c'est un truc qui s'appelle Norman fait des vidéos, vous tapez ça sur Google, et il a une vidéo sur les dark timides, il explique comment les timides à un moment ils pètent un câble en soirée quand ils sont bourrés et qu'ils deviennent complètement incontrôlables. C'est-à-dire le même mec qui parlait pas 30 secondes avant, t'arrivais pas à lui sortir un mot, dès qu'il a bu ses 4 verres de punch, il devient insupportable, c'est le mec que t'entends le plus dans la soirée. Bah, il a dit c'est ça.
Attends, je vais le noter. Dark timide.
Ouais, tapez ça, Norman fait des vidéos sur Google.
Norman fait des vidéos.
C'est gros ce truc.
Ça je note. Ça,
non, c'est exactement ça quoi.
Ah, et voilà, c'est ça, le type au début, ça sentait que ça le faisait ch'tiber à mort d'être en public et tout, et qui à la fin a fini par rajouter des provocations les plus débiles que toutes les unes que les autres, et voilà. Mm-hmm. Et Greff, par contre, lui, c'est plus le côté... notable, le type qui veut un peu se faire mousser, voilà.
Bah, un peu comme Ginestet à l'époque.
Au-delà des raisons qui l'ont poussé à faire cette transaction, pour l'instant pas encore conclue, hein, parce qu'on est
mais
encore...
Mais ce qui fait peur aussi, c'est justement les raisons. C'est là où je bloque un peu, j'ai du mal à m'imaginer ces gens à investir de façon philanthrope dans le Racing.
Mais qui investit de nos jours de façon philanthrope dans un club de foot ?
Moi, pour moi, il y a une magouille derrière, quoi. Il y a un truc...
Mais qui investit de façon philanthrope dans un club de foot ? Bah, c'est ça aussi la question.
Le retour sur investissement, il n'est pas forcément pécunier, tu vois. Enfin, c'est comme l'argent...
Il est en termes d'image.
Exactement. En termes d'image, de notoriété, il est peut-être sur d'autres sujets. C'est comme l'argent que Colony a mis dans le PSG en espérant récupérer le contrat du parc. Les Qataris, il y a une dimension d'image pour le pays, pour leur influence, pour se faire bien voir.
Pour remercier la France de la...
Ouais, Robert Louis Dreyfus, lui, c'était carrément la danseuse, ça l'amusait d'avoir un club.
Mais ils veulent peut-être prendre les supporters de Racing pour leurs clients de vente par correspondance, quoi.
Bah à mon avis, là, ils savent qu'ils arrivent en terrain miné. C'est un des éléments qui tend à me rassurer, c'est que les types, ils savent qu'ils ont quand même une réputation derrière, et que, évidemment, tout le monde sait faire une recherche Google, et que c'est pas très compliqué de tomber sur les articles sur Bernard Greff. Donc à mon avis, ils savent qu'ils arrivent en terrain miné. Il y a déjà une phrase... qui traite de ça dans le magnifique communiqué que Sébastien Greff a envoyé, tu sais, le passé c'est le passé, n'en parlons plus, etc. Donc je pense qu'au moins dans un premier temps ils vont être prudents.
Ça se trouve, ils enverront des catalogues de boutiques.
Ah, je crois que c'est des fenêtres qui vous vendaient, c'était quoi exactement ?
Greff ?
Ouais.
Ah non, les fenêtres c'était des Tribas, non ?
Ouais, mais...
Il y avait Air aussi.
Oui, il y avait Trima.
Il y avait Air aussi, ouais.
Mais le...
Alors que Air, c'était
Air Radiator, hein, Adler.
Adler, c'est Adler. Mais Vert, c'est plus le Front National. Mais
Quoi ?
Ah, bien sûr.
Adler ? Mais non, Vert.
Vert. Pas Adler, non. Vert.
L'œil de Vert.
Hein ? Bref, revenons à la question.
On va qu'on en parle après.
On va plus rien comprendre, les gens, là, les pauvres. Greff, alors, il va peut-être envoyer des catalogues de produits Racing en disant « Achetez produits Racing et vous aurez gagné un million », c'est ça ?
Ouais, non, mais du point de vue des... Bah, déjà, c'est quand même un truc qui a été supplanté depuis par le N-Large Pénis, et je sais pas quoi, donnez-moi...
N-Large Racing,
et puis donnez-moi de l'argent à la banque pour que j'aille les Moussoukro, vous donner les 1 million de mon vieil oncle. Donc ça, je pense que c'est un peu dépassé.
Tu l'as eu toi aussi, celui-là.
T'as donné ton compte bancaire sur Western Union. Exactement. Non, mais je toujours avec... Western Union. Hein,
bah, je discute avec une nana là depuis que...
Non mais mec, tu vas recevoir des centaines de spams maintenant, c'est fini quoi.
Oh putain. Alors, pour une fois, il y a des meufs qui s'intéressent à moi. Donc,
je pense pas qu'il y ait des escroqueries.
Alors la question, bon, au-delà des raisons pour lesquelles ils veulent acheter le Racing, est-ce que, bah, pour faire un mauvais jeu de mots comme tu l'as failli faire avant, est-ce que la grève peut prendre? Est-ce que ça peut marcher?
La grève peut prendre.
Non mais est-ce que ça peut marcher? Est-ce que finalement on n'aura pas besoin de ça finalement, hein, de gens pas forcément trop bien quoi, pour que ça marche quoi, je sais pas.
Ou non. Je pense qu'effectivement, ça, cela dit, je pense que ça peut marcher. Par contre, quand tu disais que les mecs viennent en terminé, il y a le passé, il y a leur passé, mais je pense qu'il y a aussi le passé du Racing et il y a le passé de Jaffar tout simplement. Et nous, en tant que supporters, observateurs et machin, il y a aussi ce scepticisme là, quoi. C'est-à-dire que maintenant, dès qu'il y a un président, on vient de bouffer un an et demi de Jaffar, et on se dit la suite, qu'est-ce qui nous attend? Et donc du coup, je pense que ça vient de là aussi. Et cela dit, Greff, il a quand même dit, bah, je vais tout de suite appeler des gens. Bon, il a pas appelé Pignatelli, c'est une chose, mais il a appelé Canosi, etc. Il va venir à Strasbourg, il va se présenter, on va savoir qui c'est, il va faire une conférence de presse.
Mmh. Bah, la Fontaine,
on sait qui c'est, voilà, le fameux projet. Donc,
ouais,
voilà,
il l'a fait au bout de 15 jours. En fait.
Voilà. Ouais. Donc je pense qu'ils ont déjà appris de ça et ils veulent éviter de refaire ces erreurs-là. Donc c'est déjà quand même positif.
Ils connaissent un peu de monde, tu vois.
Déjà,
les journalistes sont déjà assez sympas avec eux au début, donc tu sens qu'ils ont un peu quand même... Voilà, et puis même pour ce que tu disais par rapport au niveau du supporter, non seulement il y a le scepticisme, mais il y a aussi un niveau de vigilance qui est vachement accru par rapport à la période d'Ilali, parce que moi, il y a un an et demi, ces histoires de comptes courants d'actionnaires, de tout ça, j'y comprenais que dalle, de holding, et ben on est un peu tous devenus des spécialistes, on a été forcés dans ces trucs-là, donc maintenant, ce sera aussi... plus difficile, au moins dans un premier temps, de faire des coups fourrés.
Ça, c'est une bonne chose.
Et reprocher à Pignatelli, pardon, je te coupe. Reprocher à Pignatelli de vouloir faire capoter l'affaire. Nous, on fait ça, là. On est un peu sceptique autour d'un dictaphone, et puis, ou alors derrière, sur le
studio. Dans le studio Radio Show.
Ouais, chez Conan.
Alors, donc, c'est assez simple. Mais Pignatelli, lui, il est sceptique, et il pose les mêmes questions que nous, on pose, mais parce qu'il a mis 1 million. Donc finalement...
Là, je trouve très pertinent, moi, ces interventions. Il dit simplement qu'il n'est pas prêt à effacer l'ardoise d'Ilali parce que maintenant, il va abandonner son
pognon. Il a mal au cul,
c'est normal. Mais c'est normal, je veux dire, c'est tout à fait logique. Voilà,
ce qui est normal.
Je comprends pas les ch'toubistes qui Pignatelli, là.
Ah, si, moi, je peux le comprendre.
Non, bah non.
Je peux le comprendre, simplement, la différence entre eux et nous, c'est que nous, on l'a rencontré, Pignatelli, c'est un mec super sympa. J'ai pas envie de le casser, quoi.
Bah, moi, je l'ai pas rencontré, mais si j'avais mis 1 million,
il y a une démarche qui correspond à son attitude politique aussi. Hein.
Non, mais après, dans l'absolu, ça se défend. Voilà,
Moi, je ne l'ai pas rencontré non plus. C'est pas non plus ma tasse de thé à la base. Non. J'aimais pas trop comment il râlait tout le temps à l'époque. Mais là, pour le coup, à mon avis, là, il a 100% raison. Dans le sens. À mon avis, de toute façon, c'est pas compliqué. Hein. Si Ilali, avec tout le mal qu'il a fait, a réussi à récupérer ses 1,6 million, Pignatelli peut au moins récupérer les 250 000 euros qui lui sont dus apparemment en bonne et due forme d'après le protocole qu'il avait signé au moment où il a investi. Il devait récupérer 250 000 euros au moment de l'été 2011. Et bien si Monsieur Greff a filé 1,6 million à Ilali, il peut bien filer 250 000 euros à Pignatelli au moins dans un premier temps pour aider à faire passer la pilule.
Ou tout simplement savoir exactement ce qui va être fait avec son million.
Voilà. Alors pour recadrer sur Greff, donc je posais la question de savoir est-ce que ça peut marcher. Donc toi, tu disais oui, plus ou moins. Enfin, je sais pas quel est l'avis général qui se dégage ici.
C'est wait and see.
Hein. Ouais, wait and see. Mais j'ai le sentiment, moi, que finalement. Il n'y a pas un élément rédhibitoire qui me ferait penser que ça peut que rater. Moi, je me souviens en décembre 2009, moi j'étais sûr au bout de 15 jours que ça allait foirer.
Ouais, mais toi, t'es un...
Mais c'était clair.
Après, les faits t'ont donné raison. Mais
regarde comment ça s'est passé. Les 10 jours de No Man's Land, la conférence de Fontaine-là.
Fontaine-là.
Le Julien Fournier aussi.
Le Julien Fournier, je venge, je vends pas, la DNCG. Je veux dire, c'était un bordel pas possible, 3 semaines. C'était rédhibitoire. Là, moi je me dis qu'il y a une possibilité, je ne saurais pas la chiffrer en termes de probabilité, mais je pense que ça peut marcher. Voilà.
Ouais, sauf qu'on n'en est qu'à 3 jours.
Ouais, on n'en est qu'à 3 jours, voilà.
Il en reste 12 pour arriver à ton stade d'évaluation.
Effectivement.
Ouais. Et que la reprise a déjà elle a commencé et que là, il serait temps qu'il se passe quelque chose.
Et surtout que la vente n'a pas été actée. Donc moi je considère que le chrono commencera au niveau des jours quand la vente sera actée. Parce que pour l'instant, finalement,
tu fais tout pour être dans le White NC.
Par la force des choses, malheureusement.
Bah, moi, j'ai
j'étais le plus sceptique.
Pas trop ça, mais...
Moi j'étais le plus sceptique sur le Stubb.
Ah oui.
Je me suis fait un peu vilipender par rapport à ça. Mais en fait, fondamentalement, je pense qu'on n'a pas de grande divergence. C'est juste que je l'ai exprimé différemment. Bien sûr, le bénéfice du doute, le wait and see, le ça peut marcher. Là-dessus, je suis d'accord. Moi, le gros doute que j'ai, c'est vraiment toutes les échéances qui ont été repoussées, que ce soit en termes de primes à verser aux différents actionnaires, que ce soit en termes de procès, que ce soit en termes de centre de formation qui va rien rapporter, qui va pas sortir de joueurs dans les années à venir parce qu'il a été saccagé.
Les factures qui n'ont pas été payées.
Voilà, tout ça fait que à très court terme, effectivement, on est tous contents parce qu'il va y avoir un Racing qui ressemblera peut-être à quelque chose l'an prochain, avec quand même des joueurs pros, quand même certaines couvertures médiatiques, quand même des déplacements un peu partout en France dans un championnat. Bon, c'est 3e division, mais ça reste quand même quelque chose. Donc ça, c'est le soulagement à très court terme, mais moi, à long terme, je reste persuadé qu'il fallait, en passer par le dépôt de bilan, la liquidation et le vrai départ à zéro. Donc ça, c'est ma conviction profonde, même si je reconnais qu'évidemment, à court terme, on a tous cette dimension de soulagement. Mais pour moi, c'est un cataplasme sur une jambe de bois.
Moi, j'ai une question que j'ai envie de te poser par rapport à ce dépôt de bilan. Bah, c'était favorable à cette solution-là. Mmh. Est-ce que tu penses pas qu'il aurait pu aussi y avoir quelqu'un qui reprend le club à ce moment-là avec des intentions pas forcément... Enfin, on n'en sait rien, mais est-ce que c'était vraiment la solution idyllique? Parce que c'est vrai que ça pose quand même pas mal de contraintes et sans assurance, on va dire, sur l'avenir. Donc c'est pareil, finalement. Bah, c'est qu'il y a une incertitude énorme sur ce qui va se passer.
C'est un peu Churchill qui dit « Je vous promets que du sang, de la sueur et des larmes ». C'était clair que c'est absolument pas idyllique, ça aurait été très très difficile. Mais je pense qu'il y aurait eu moyen de réinventer quelque chose, il y aurait eu moyen de réinventer un autre club. Avec sans doute un fonctionnement plus populaire à la base, davantage basé sur le public.
En fait, tu rejoins Uni pour le Racing, là. Avec un actionnaire populaire, avec...
La petite différence que... Enfin, je rejoins Uni pour le Racing sur l'idée qu'il faut mettre ça sur l'agenda de la participation. Moi, la petite différence, c'est que moi, la participation, pour moi, au début, elle peut être pécuniaire, mais qu'elle devait aussi être très concrète. C'est-à-dire que, fallait des gens pour passer le balai dans les tribunes, tenir la buvette, accompagner les gamins au match de moins de 11 ans, voilà. Donc ça, pour moi, la participation, elle aurait aussi été vraiment très concrète, quoi. Les gens qui font le club, enfin, c'est toi qui supporte à l'Union de Berlin, c'est connu qu'à l'Union de Berlin, les supporters ont même participé à la construction du stade, ou à sa rénovation.
Enfin, c'est ce que tu aurais voulu, toi.
Ben, moi, je voyais un modèle un peu comme ça. Ouais. Je pense que ça m'aurait davantage plu, et je pense que c'était un modèle qui aurait été plus porteur pour l'avenir du foot. Pour moi, le foot pro, le foot business actuel, il semble quand même un peu en bout de
là, tu lances un débat super intéressant, mais on va pas trop... Enfin, on peut en parler, mais pour en dire sur ce que tu dis, moi, je pense que ça aurait été une super idée. Hein. Je te rejoins parfaitement. Maintenant, il faut voir qu'on est en France, dans un pays où il n'y a aucune structure de ce type qui existe, et que fondamentalement, je pense que les supporters et les gens n'ont pas cette même culture par rapport à ça, quoi.
Ça, je le reconnais bien.
Il y a l'Angleterre, il y a l'Allemagne, où il y a des initiatives de ce type qui existent, où les supporters sont très... L'Autriche aussi, oui.
Ça se voit.
Voilà. Mais moi, je vois mal, au Racing, tu vois, le nombre de supporters mobilisés à la Fédération des supporters, c'est pas énorme, quoi. C'est pas mal, hein. C'est très respectable, c'est un succès.
Ouais. À l'échelle française, c'est énorme. Mais à l'échelle française.
Quand tu vois qu'on crève le plafond à l'échelle française, quand tu globalises un peu les choses...
Ah, mais la France n'est pas un pays énorme, foot, hein.
C'est un modèle qui peut marcher, mais il faudrait d'abord que autre chose, quoi. Je sais pas. Enfin,
ouais.
Je pense qu'on n'est pas prêt, en fait, pour ça.
Tu peux avoir aussi un système intermédiaire où tu aurais pu avoir effectivement, au bout d'un moment assez rapide, une société qui se reconstitue avec des actionnaires davantage identifiés, du type entrepreneur, des gens qui ont une fortune, et puis une petite participation de 10% de supporters. Avec des trucs, un système un peu mixte, en fait, qui se met en place. Même avec le système, on va dire, plus classique français, même avec un truc un peu moins fantasmagoré que ce que j'ai énoncé auparavant, je veux dire, moi, je pense pas qu'à Strasbourg, on soit plus con qu'à Brest ou Valenciennes. Alors, si à Brest ou Valenciennes, ça a pu marcher, pourquoi ça marcherait pas à Strasbourg?
Parce que Brest et Valenciennes, c'est pas des clubs qui ont une aura... aussi vaste que Strasbourg, parce que Strasbourg c'est quand même un club, le Racing de Strasbourg, c'est l'Alsace quoi.
Oui, alors que Brest, c'est quand même des clubs populaires, bon ça
va ouais, pas le roi d'un Racing de Strasbourg. Non, ce que je veux dire, c'est des clubs populaires mais qui se limitent à des zones géographiques réduites.
Valenciennes c'est quand même... peut-être la zone la plus peuplée de France.
Ouais, mais à côté t'as Lens, donc t'as tout de suite
Lens, t'as Lille.
Alors que Strasbourg, t'as pas un club à 10 000 km à la ronde quoi. Donc ça c'est...
On picole moins qu'à Brest et Valenciennes.
Pourtant on est bien, bien classé, mais on est encore un peu en deçà. Enfin, pour en revenir, je sais pas si vous voulez en réagir à ça, je vous laisse la parole parce que c'est intéressant. Donc,
Non mais c'est vrai que ta vision, quelque part, d'un point de vue du cœur, hein, je la partage complètement, je trouve, Clément, ton truc. Hein. C'est vrai que ça aurait été excitant finalement de fonder quelque chose de nouveau avec le Racing Club de Strasbourg. Maintenant, franchement, est-ce qu'on en avait la capacité? Toi, moi, nous quatre autour de cette table, il y en aurait eu quelques-uns, on est geeks du Racing. Maintenant, est-ce que ça aurait suivi?
Ah bah ça, c'est la grande question. Après, au début, pour un club amateur de CFA ou CFA2, il n'y a pas besoin non plus d'être des millions.
Hein. Oui, bien sûr.
Non, la vraie question, c'est que la passion autour du Racing, elle est à double tranchant. C'est-à-dire que les querelles que tu peux avoir dans une société où les actionnaires s'engueulent, qui déjà sont extrêmement dangereuses, elles peuvent être multipliées en 10 fois pire dans une association où les lignes de démarcation et de pouvoir sont encore moins claires, parce qu'il n'y a pas de capital, etc. Ouais. Donc il y avait la possibilité effectivement que tout le monde s'engueule parce qu'il y a cette passion, c'est clair. Donc c'est clairement un chemin qui est aussi semé d'embûches. Mmh. Mais moi, du point de vue du long terme, il me semblait au moins porteur d'une perspective... plus, si je m'imagine le Racing en 2025 et je me dis avec quel système le Racing a le plus de chances d'être en Ligue 1 en 2025, je me dis c'est ça. Je sais qu'elle est dangereuse et qu'il y a des chances que ça échoue. Là j'ai l'impression qu'avec la reprise, on continue dans le même genre de système, c'est un peu la même chose depuis des années.
On a toujours les casseroles, on a l'illuminé en moins quoi.
Voilà,
les casseroles sont toujours là.
Mais finalement on revient un peu à ce que ça a toujours été depuis que McCormack a vendu. Pour moi on a reporté le problème d'un an. Ça se trouve dans un an on sera de nouveau en train de chercher un repreneur, de nouveau en train de taper la porte de la ville.
Mais là je crois qu'on est dans un problème qui est plus vaste que le problème du foot, du Racing, c'est un problème de société. Et je crois que là, enfin, moi, mon espoir finalement, c'est plus des débats plus vastes, mais il faudrait que la société change pour que le foot change et que ce type de système soit possible. Alors moi, ce que je souhaite et éventuellement, c'est que ce dépôt de bilan que tu souhaitais plus tôt se produise peut-être un peu plus tard.
Ouais.
Histoire qu'on soit dans une configuration, je sais pas, en 2015, 2020, où il y aura vraiment un terreau favorable, fertile pour
ce genre de
que ça marche vraiment et qu'on ne soit pas trop dans l'inconnu. Parce qu'à mon avis, moi mon sentiment, je suis très enthousiaste par rapport à ce genre d'initiative d'investissement populaire pour un club de foot, mais je crois que ça ne marcherait pas actuellement. Quoi.
Je pense que c'est l'argument le meilleur argument qu'on peut opposer à mon plan, c'est que ce système-là, il est aussi faisable en 2012 si jamais la greffe n'a pas pris entre-temps. Mmh. Donc en fait, on peut exactement faire la même chose l'an prochain. Ouais. Donc finalement, on s'offre une boule de flipper en plus pour éventuellement sauver
la dernière partie. Pour une charmie. C'est comme une boule de flipper. Et ça,
elle était charmante. Hein.
Ah ouais. Faudrait lancer ça pour une nouvelle ligne du Racing, parce que ce serait parfait. En plus, ce serait très métaphorique là pour le coup. Mm-hmm. Le Racing comme une boule de flipper.
Elle était pas mariée avec le mec de la Warner, je crois, à un moment donné, juste comme ça.
Ah ouais, quand même,
ouais, je crois.
Alors, juste, moi j'ai une petite question aussi à vous poser par rapport à ce communiqué qu'a publié quand même Sébastien Greff, un communiqué rédigé par une agence de com que vous avez peut-être lu. C'est l'Alsace qui l'a retranscrit in extenso, je crois que c'était déjà jeudi soir ou vendredi soir sur Internet. Bon, où il explique un petit peu ce que tu disais avant. Bon, le passé c'est le passé. Notamment dans ce communiqué, bon, il se met en valeur évidemment, hein. Il essaye de d'apparaître comme quelqu'un de crédible, mais il dit quand même des choses. Alors moi ce qui m'a fait tiquer, c'est on vise la remontée en D2 en 3 ans. C'est ce qui est écrit dans le
communiqué. Ouais, mais ça c'est un effet.
Alors c'est quoi? C'est juste un effet de com? Parce que la remontée en 3 ans en D2, ça veut dire qu'en gros, la reprise ne sert à rien puisque l'an prochain on repasse amateur, quoi. Donc autant passer amateur tout de suite, quoi. Enfin moi ça me laisse sceptique cette histoire de remonter en 3 ans en D2, quoi.
Finalement, amateur ou pro, à partir du moment où le centre de formation a déjà été complètement saccagé, c'est ce qui est le cas, par les années Ginesté puis Ilali encore pire,
finalement, tant que tu restes en national, amateur ou pro, la différence n'est pas énorme. Tu auras plus de difficultés à attirer des très bons joueurs de national en n'étant pas pro. Mais c'est un peu la, c'est un peu la seule différence.
Bah pour donner une idée, par exemple, la SCAN, ils sont amateurs.
Ouais.
Ils ont quand même attiré Yann Kohler et ouais, parce que tu... deux ou trois bons joueurs.
Parce que tu as ce qu'on appelle le contrat fédéral, qui en fait est un contrat pro maquillé, quoi.
Ouais, mais si tu remontes en Ligue 2, tu reprends automatiquement le statu quo, alors.
Oui.
T'es obligé.
Même si tu l'as perdu l'année d'avant.
Ouais. T'es obligé, même, je crois.
Donc si demain...
Oui, t'es obligé d'être en...
Si demain, au bout de... donc l'an prochain, on monte pas, on perd le statut pro, et l'année d'après, donc dans deux ans, on joue la montée, on repasse pro.
Oui, sauf qu'entre-temps, on aura perdu le centre de formation. D'accord. Et que là, pour...
Et l'histoire des trois ans, c'est quoi, alors? Il n'y a pas trois ans pour...
C'est si jamais tu l'abandonnes de toi-même.
D'accord.
Là, a priori, on va le garder pour un an.
L'enjeu, c'est de pas perdre le centre de formation aussi. Parce que moi, ce qui me fait toujours tiquer par rapport au fait de repasser amateur, c'était on perd le centre de formation, l'agrément, qui est très long à récupérer. Et finalement, c'est tout un édifice, là, pour le coup, très humain et très porté sur le long terme.
Qu'est-ce qui justifie ces règlements? Parce que ça me paraît très dur, quand même. Quoi.
De quoi?
Voilà, tu perds le centre de formation pour 6 ans.
Parce qu'en fait, il faut bien se rendre compte qu'un centre de formation, le club qui est formateur, il a des privilèges énormes par rapport aux joueurs. Tu fais signer un accord de non-sollicitation à un gamin comme Loïc Damour, qui a 11 ou 12 ans. Donc en fait, c'est les parents qui signent.
Ouais.
Tu peux garder ce gamin jusqu'à ses 20 ans. Si tu fais les choses dans les formes,
oui.
Et à moins que le gamin décide de partir à l'étranger, tu le verrouilles. Donc tu as un contrat avec lui, tu lui fournis une formation, une rémunération, ouais. Un hébergement, mais lui, il est bloqué chez toi. À partir du moment où tu le renouvelles en temps et en heure, c'est tout le modèle de formation français est basé là-dessus.
Ça rappelle les contrats à vie des joueurs pro jusqu'à 35 ans là dans les années 60.
Un petit peu, tu vois, enfin c'est comme, je sais pas, si t'avais ça, genre tu t'engages dans un truc d'apprenti menuisier et t'es obligé de rester de 12 à 20 ans, enfin c'est assez énorme, donc c'est un privilège qui est énorme. Donc du coup,
c'est une responsabilité aussi.
C'est une grosse responsabilité. Donc
il peut former et déformer des gens. Quoi.
Voilà, donc ça n'est accordé qu'à des clubs qui sont très crédibles sur le plan des infrastructures, sur le plan du fonctionnement général. Et donc voilà, donc ça suppose d'avoir non seulement le statut pro, mais il te faut aussi un certain nombre d'éducateurs, il te faut des gens qui s'occupent des gamins, t'as des obligations par rapport à l'école, t'as des obligations aussi sanitaires,
d'hygiène. Comme dans l'entreprise, quand t'accueilles des apprentis, c'est pareil.
Mais en même temps, ça fonctionne à Strasbourg.
Oui, aujourd'hui.
Mais de plus en plus mal, mais ça fonctionne quand même.
Mais pas à cause des gens qui s'en occupent, qui sont admirables, hein, mais parce que les différentes présidences ont ruiné le truc. C'est-à-dire que le centre de formation actuel, c'est pas du tout le centre de formation dont Ginesté a hérité à l'époque en 2006, qui était un outil magnifique.
Donc c'est Ginesté qui a tout détruit, quoi.
C'est Ginesté qui a commencé le fait de rogner les moyens du centre à chaque fois parce qu'il lui manquait de l'argent, et à chaque fois il rabotait un peu le budget. Et de fil en aiguille, on a... Ce qui est bizarre avec les centres de formation, c'est que tout le monde dit... Strasbourg, centre de formation, 8e centre de formation de France, le classement qui est sorti l'an dernier. Sauf qu'en fait, il y a toujours un effet de décalage.
Ouais.
C'est ce que Duguay Perrault avait expliqué quand il était venu à la Fédé. Il disait, mais tous les jeunes que vous avez vu jouer au Racing ces deux dernières années, c'est moi qui les ai recrutés à l'époque, quand j'étais avec Marc Keller et la cellule de recrutement. Et à l'époque, on a bossé comme des vrais pros.
En fait, le centre de formation du Racing actuellement est 8e d'un point de vue national.
Le travail qui a été fait il y a 5 ou 6 ans.
Voilà, donc,
ce classement 8e,
il était 8e.
Ouais.
Enfin, il est 8e
aujourd'hui.
Mais il était 8e. Enfin,
voilà. C'est le travail il y a 5 ans.
Voilà. Et derrière ce travail.
Dans 5 ans, il sera 45e. Quoi.
Voilà, ce travail il s'est dégradé. Donc la mariée est un peu moins belle. Donc même si évidemment on est tous partisans de la formation, on est tous partisans de garder un centre de formation, du point de vue d'un greffe, il a peut-être moins envie de garder le centre de formation maintenant que s'il l'avait repris il y a 5 ou 6 ans.
C'est ce qu'expliquait Duguay Perrault, hein. C'est qu'aujourd'hui les bouts de bouse, les Marvin Martin, ils vont à Sochaux. Quoi. Alors qu'ils devraient être à Strasbourg.
Et aussi,
c'est nous qui devrions être le pôle attracteur du Grand Est et c'est plus le cas, c'est ça le problème. Hein.
Alors, pour accélérer un petit peu, juste un mot sur Jackie Kins.
Jackie Kins,
qui était, qui est au cœur de l'histoire, parce que c'est lui qui a priori a mis en relation Greff et Ilali. Voilà, et il a pris, bon, là aussi c'est une éclairage.
Ils sont peut-être là les 500 000 euros en plus entre le million de Citerlé et le 1,5 de...
Ah c'est peut-être, ouais,
je crois. Là ça va.
Non mais un mot sur Jackie Kins, c'est ce qu'il a bien fait de favoriser cette vente, c'est ce qu'il a bien fait de... Alors certains disent collaborer, hein, certains disent être là, certains disent favoriser, je sais pas. Est-ce qu'il a bien fait? Est-ce qu'il sera président? Voilà, un mot sur Jackie Kintz.
Bah moi c'est, je pense que c'est un peu un des pires personnages de la farce hein, depuis un moment. Moi j'ai absolument pas digéré le fait que Monsieur Kintz était vice-président du conseil de surveillance, que personne l'a obligé à rentrer dans ce conseil de surveillance, que ça n'avait aucun intérêt, mais que pourtant il y était, et qu'en plus il a présidé les réunions où il a entériné toutes les magouilles. Et ça pour moi c'est impardonnable. Donc après tu peux te faire mousser en disant j'ai mis en relation truc et bidule. Je pense que des gens pour mettre en relation Greff et Hilali, il y en aurait eu d'autres.
Donc, là, vous pouvez mettre des filles en relation avec moi. Hein,
ouais. Si vous voulez mettre des filles, n'hésitez pas à envoyer des MP à
Donc moi, Kintz, pour moi c'est dehors, hein, j'en veux plus, c'est clair.
Mais il a quand même fait du bon travail entre 90 et 92.
Ouais, c'est comme le maréchal Pétain, il a fait du bon
travail. Non,
C'est pour imaginer un peu, c'est comme un personnage, donc le maréchal Pétain, qui a été glorieux en 1916, en 1917-18, mais qui a fait de la merde en 1940. Voilà, c'est rien ce qu'il a fait en 2012, ce que Jackie Kintz a fait en 92, n'excuse pas ce qu'est dans ce Schrottim.
Maintenant, si le Racing remonte, fait la douche marche, comme les Allemands disent, c'est-à-dire la douche marche. C'est-à-dire que tu montes du champion et tu remontes ensuite. Donc en gros, deux ans, tu passes de la D3 en l'occurrence à la D1.
Ouais.
Et grâce à Greff, voilà, l'équipe qui se met en place, entraîneur, et qu'à la base, Jackie Kintz a permis ça, quelque part. Faut aussi voir ça, tout est conditionné par la situation actuelle, mais si on se projette un peu, est-ce que Jackie Kintz n'aurait pas sauvé le Racing actuellement?
Ce serait surtout la chance qui aurait sauvé le Racing à travers un coup de cul monstrueux à mon avis, hein, parce que pour enchaîner deux montées dans l'état où on est, il faudrait vraiment que Jackie Kintz il ait enterré je sais pas combien de corbeaux morts dans son jardin, des pieux, des oignons, tout ce que tu veux.
Il a fait un pacte avec le diable.
Voilà, donc honnêtement, non.
Ouais. Mais Kintz là il est en train de faire un audit, c'est ça?
Ouais.
C'est-à-dire c'est le mec qui conseille la vente qui fait l'audit.
Ouais.
C'est normal ça.
C'est bizarre ça.
Bienvenue dans le monde du Racing.
C'est marrant ça.
C'est marrant ça.
Mmh.
Donc lui il va dire non attendez il y a des loups dans les placards machin évidemment.
Bien sûr, vu qu'il a conseillé la vente, il va évidemment dire que c'est le bordel et que ça
ne
va
pas de manière désintéressée non plus, donc il a aussi son petit pourcentage au
sans
passage.
Mmh. Sans doute.
Non mais après qu'il ait été un très bon président en 92, il n'y a pas.
Et encore, ça c'est à relativiser parce qu'il était président mais il était actionnaire minoritaire. Et cette période-là, on s'en souvient tous bien sur le plan sportif, parce que ça a bien marché à cette époque-là, mais en coulisses, c'était la guerre, c'était pas possible. Là aussi, c'était comme avec Marc Keller, ils avaient à peine monté un groupe pour la reprise du club, qu'ils se tiraient déjà tous dans les pattes, entre Wendling, Kintz, Emil Stahl, qui était là aussi au début, qui s'est barré. Et Bord encore, qui était derrière. Donc là, la seule chance qu'ils ont eu, c'est qu'à l'époque, sportivement, ça a marché malgré ça, parce qu'on avait des super joueurs, contrairement à l'époque Keller, où ça s'est cassé la gueule sportivement, mais donc c'est pas si idyllique que ça. Hein.
Il vit qu'il dirait que Stahl c'est une étape en Alsace.
Voilà.
Stahl.
Un petit mot sur Jaffa, est-ce qu'il a gagné la partie? Il récupère quand même 1,6 million.
Il s'en sort bien.
Ouais, il s'en sort très bien.
Si ça se fait, hein. Si ça se fait, est-ce qu'il s'en sort bien? Est-ce qu'il a gagné? Est-ce que...
Bah, il est vivant, puis il récupère de l'oseille. Hein, donc,
Moi je trouve ça honteux.
Ah oui, non, mais moralement, c'est honteux. Moralement, c'est quelque chose, mais c'est...
Est-ce que c'est pas révélateur de l'état du fonctionnement du football professionnel
et de la société de manière
plus large. Société, voilà. C'est...
Bah, c'est surtout révélateur du... À part, c'est la stratégie du fou ou de celui qui pousse le plus loin. Vous en avez déjà parlé. C'est-à-dire, à partir du moment où tu montres que tu es prêt à tout perdre, eh ben, forcément, les autres, ils vont finir peut-être par céder à son chantage. Mmh. C'est comme si moi, je commence à jouer à la roulette russe avec vous et que je vous donne l'impression d'être un déglingos total et que j'en ai rien à foutre de me faire péter le ciboulot. Bah, au bout d'un moment, vous allez plus vouloir jouer.
Donne-moi 1000 euros, sinon, tu tires une fois, deux fois, et puis...
Et donc, si j'ai vraiment l'air d'être complètement incontrôlable et d'être prêt à aller au bout, bah, vous allez finir par céder. Ce qui est complètement cinglé, c'est que...
Ça marche.
Déjà, ça a marché. Et en plus, Hilali a obtenu des conditions qui sont encore meilleures que celles que Ginesté avait eues. Alors que Ginesté, bon, il avait déjà pas mal lourdé le club, mais le club était encore en D2, il avait encore un centre de formation, et il avait encore des joueurs qu'il pouvait vendre.
Ouais.
Pas énorme, mais il y en avait. Donc,
ils vendent un truc qui est moins bien et ils le vendent plus cher.
Ouais, mais Ilali avait plus de thunes après par ailleurs dans le Racing que Ginesté, quoi. Donc c'est-à-dire que Ilali, même s'il récupère un peu plus de thunes que Ginesté, ben il en a perdu, au total il en a perdu, quoi. Et il sort de cette histoire.
Après, en fait la plus-value d'Ilali, c'est que le Racing était en danger de mort.
Ouais.
Que quand Ginesté l'a vendu, bon il était mal en point, il n'était pas en danger de mort.
Et alors qu'il faut repenser aussi à l'époque à IMG qui a revendu 1 euro symbolique le club, justement avec cet argument de bah il y a des dettes, il y a quand même une structure dans ce club, mais il y a des dettes, il faut qu'on s'en débarrasse, on le vend 1 euro symbolique.
En fait on a progressé en immoralité en 10 ans, quoi.
Mais complètement,
c'est ce qu'on peut dire.
Hein. Complètement. Et au final, Patrick Poisy revient dans l'histoire comme un parangon de moralité et de désintéressement par rapport au Racing.
Merci Patrick.
C'est ça le plus terrible.
C'est ça le plus terrible.
C'est ça le plus terrible, c'est quand on refait le film à... C'est que finalement, ce Proisy, c'était le moins pire du lot, quoi.
Mmh. Bon, après, Proisy, c'est le siège aussi à Cleveland. Quand le vieux McCormack est mort, on lui a dit « Arrête tes conneries, lourde-nous ce truc rapidement. » Il l'a fait le plus rapidement possible. Ouais, ouais.
Et après, il s'est fait lourder, d'ailleurs.
Et après, il s'est fait lourder. Il a été viré pour faute grave 6 mois plus tard, un truc dans le genre.
Ouais, en tout cas le Racing.
C'était par rapport au Racing la faute grave ou c'était...
Bah non, mais c'est juste qu'ils en avaient marre de lui. De toute façon, leur seul gros dossier à l'époque, c'était le Racing. Donc ils l'ont viré, quoi.
Alors, Ilali a quand même perdu. Bon, si on fait le total, alors il s'en sort peut-être bien, au final, moins pire que ce qu'il aurait pu, parce qu'il aurait pu tout perdre. Mais il perd quand même plus d'argent qu'il en a gagné. Bah, il en a perdu, hein. Voilà.
Il y avait des calculs sur le Stubb.
Bah, il a quand même mis X millions. Alors
au total, il a dépensé près de ses 7 millions. Pas investi, mais dépensé près de 7 millions. Pour l'instant, il a récupéré 1,6 million.
Donc c'est rien.
Ouais, mais il est assis sur deux autres millions.
Et après, il y a la
petite... 3, 3.
1, 1, 5, puis 1, 5. Donc ça, c'est seulement sur mot. Bon, c'est assez hypothétique. Mais et il y a encore le point d'interrogation de l'argent que Fontainebleau avait mis. Donc on ne sait pas du tout ce qu'il est advenu de cet argent-là. Parce que cet argent-là, Fontainebleau l'a abandonné. Donc est-ce que Ilali a remboursé Fontainebleau derrière, ou est-ce que Fontainebleau est aussi un peu dans un scénario à la Tom Sawyer, ça
Alors là où il a
Tom Sawyer dans le côté obscur, quoi.
Non mais là où Ilali a perdu aussi, c'est ce qu'on disait avant, c'est qu'en tant que président du Racing...
le côté obscur de Tom Sawyer. Légèrement penché vers l'avant.
Là où Ilali a perdu aussi, c'est que ce qu'on disait avant, en tant que président du Racing, il aurait pu, avec un peu plus de jugeote, en retirer des bénéfices symboliques et ensuite en termes d'image, quoi.
Ouais, mais il le voyait pas parce que lui, son intérêt, c'était le stade.
Ouais.
Donc à partir du moment où il n'y avait pas l'euro, l'histoire était finie pour lui.
Faut quand même dire que le calcul qu'il a dit dans France Football était complètement débile, quoi. Ce genre, il va y avoir un stade, je vais... assainir le club et le revendre plus cher, pour moi ça n'avait aucune chance de marcher. Quoi.
Non mais c'est incroyable aussi cette histoire, parce qu'il dit que finalement son objectif c'était le stade.
Mais c'était pas d'équipe, enfin je veux pas...
Même au-delà de cette considération effectivement qui est très juste, c'est quand le moment a été de présenter à la mairie son projet de stade, le mec il présente une feuille A4. Même moi, je sais pas, j'ai été étudiant, quand je rendais des mémoires, j'ai essayé de faire des trucs un peu chiadés, quoi.
Alors si quelqu'un dans son réseau travaille à la mairie ou quelque chose, peut avoir...
Mais c'est sûr que mémoire de rapport...
On est prêt à payer très cher.
C'est sûr que mémoire de Knacki en vidéo, là, il est plus chiadé.
Non, mais c'est ça, ce qui est terrible, je suis sûr qu'il y a des ch'toubistes, il y a Knacki, moi, je sais qu'il y a des mecs comme Kibis qui savent rédiger des choses, on aurait fait quelque chose de mieux.
Ouais,
mais pourtant on n'est pas millionnaire, quoi.
Tout le monde peut rédiger quelque chose de mieux.
Oui, c'est vrai que c'est une... Mais de toute façon, et même à la base, effectivement, allez, t'as une petite chance de gagner de l'argent dans le foot si tu te débrouilles pas trop mal et que tu réussis à trouver un titre pour dégager rapidement de ton investissement, c'est possible. Et moi, enfin, les quelques notions de finance que j'ai, on m'a toujours appris que finalement, cette rémunération-là, elle devait être mise en parallèle avec le risque qui existe. Et dans le foot, le peu d'argent que tu peux gagner ne couvre absolument pas les risques que tu prends, parce que voilà, ton meilleur joueur, il bouffe un kebab infesté je sais quelle salmonelle, il est out pour 6 mois, et bah, tu perds des millions d'euros juste parce que le type il est allé bouffer au kebab. Ou il s'est fait un lumbago dans sa bagnole en voulant tirer un coup, ou que sais-je. Donc ça ne couvre absolument pas les risques. Donc d'un point de vue du financier hyper rationnel qui se vante d'être, ça n'a aucun sens.
Simplement de l'homo economicus que nous sommes tous, c'est pas rationnel.
De toute façon, le football, c'est le truc le plus irrationnel qui existe.
Ouais,
tu veux faire du fric dans le football? Le football, c'est un plaisir.
Mais quand tu sais que la Corée du Nord en 66 a battu l'Italie...
Voilà, ouais, après il y a des raisons.
Bref, en tout cas, moi, là aussi, à mon sens, Yali a perdu, c'est que bah, sur la fin, avec son attitude de « j'ai plus rien à perdre, je raconte des conneries, je fais des vannes très drôles, tout va », bah, il y a eu des articles dans Le Monde, Libération, Le Figaro, France Foot, le dossier que toute la France a pu lire. Donc le,
il est passé pour un con,
le nom de Jafar Hilali maintenant dans les bases de données, tu tapes Jafar Hilali, il y a une page Wikipédia.
Il s'en fout ça.
Non, il s'en fout, mais attends, dans les affaires, quand tu fais. Après, c'est la réputation qui compte, c'est l'image aussi. Hein,
y a... mais il s'en fout, c'est un mec qui bosse derrière un ordinateur sur des fichiers Excel.
Il s'en fout, mais les gens.
Dans 6 mois, il y a tout le monde qui aura oublié ça.
Oui, mais ses interlocuteurs. Qui vont faire des recherches sur lui parce qu'ils auront envie de conclure.
Bah, ils verront qu'il a dirigé un club de foot et que ça s'est pas bien passé.
Bah, ils verront, ils tomberont sur l'article de France Football, ils tomberont sur ses déclarations complètement irrationnelles, complètement.
Et mais il s'en fout, il aura un prête-nom. Il y aura quelqu'un d'autre chez Carlos.
C'est toujours pareil, on en est toujours pareil à ces discussions sur Hilali. On applique nos propres schémas de pensée logiques et relativement cohérents
à
quelqu'un qui ne l'est pas.
Je ne sais pas si avant, son nom avait été autant associé à tout ce qu'on peut dire sur lui autour de cette table.
Tu trouves toujours un prête-nom. Regarde, on a un exemple devant nous, Bernard Greff, il suffit d'envoyer Sébastien. Tu trouves toujours un Sébastien Greff qui s'appellera en plus pas Hilali et tu le mets à ta place, il l'a bien fait avec Fontaine là, donc il trouvera toujours un prête-nom pour faire son discours.
Certes, ça c'est la théorie, mais en pratique, parfois il faut
le truc, qu'est-ce qui nous prouve en plus que Hilali, c'est lui qui tirait les ficelles. Est-ce qu'il n'y avait pas quelqu'un derrière?
Ah, de toute façon, ça c'est
Jackie Kings.
Ça je pense qu'on saura, on saura jamais.
On le saura jamais, mais voilà.
Ah, peut-être que j'attends quand même Godin, qui, si la vente se fait, que la page Hilali est tournée, j'attends quelques articles
qui sort le truc, mais c'est vrai que moi je me suis toujours demandé, mais Hilali c'est un acteur, c'est pas possible, quoi. C'est...
Peut-être, hein. Bah, on avait la théorie de Roman Loban acteur, qu'en fait l'acteur c'était Jafar Hilali, quoi.
C'est un happening, happening perpétuel.
Il va sortir un film dans deux ans, un truc énorme.
C'est ce qu'il a dit, hein, dans France Foot, hein, il a dit qu'il voulait faire un film.
Ouais, bah peut-être, on aura un beau film sur le Racing dans deux ans. On va accélérer l'avenir sportif rapidement sur... il y a eu la reprise de l'entraînement quand même avec quelques joueurs, hein, et non des moindres, dont Zlo.
Ah oui, toujours. Hein.
Les autres, je sais plus.
Outrebon.
Il était
Genji. Il veut partir. Ouais. Bah, maintenant, c'est vrai que là aussi, ça va être un des premiers dossiers de greffe, hein, au niveau sportif, de le convaincre de rester. Convaincre Outrebon de rester.
Parce qu'il y a pas mal de joueurs encore qui sont là et l'effectif.
Skimic n'est pas parti alors.
Skimic n'est pas encore parti.
Il a annoncé à Fréjus, mais
il n'est pas sous contrat.
À l'instant où on parle, l'effectif n'est pas dégueu, quoi.
Bah, il peut être rapidement compliqué. Il est complété. Il manque quand même un gardien.
Bakay.
Ouais, ça me semble.
Il faut tenter le coup.
C'est un bon talent. Hein.
Il a beaucoup de talent, mais ça
Kei,
me semble.
Moi,
sur une saison, c'est pas.
Je suis persuadé que Kei, ce serait un gros pari, mais je suis persuadé qu'il peut faire la saison. Quoi.
Ah, il est un peu short, hein, sur les matchs que j'ai vus quand même. Attention, c'est un très très gros talent, hein, Kei. C'est peut-être le plus gros talent du centre de formation.
Moi, je pense que Kei, c'est énorme.
19 ans pour un gardien.
Mais bon, après, je pense pas que ça soit
bon. Il faut avoir un peu d'honneur aussi, je pense.
Ouais, donc déjà il faudrait
pas sur un poste aussi stratégique.
Il faudrait re-signer Sikimic qui va pas non plus attendre 150 ans. Pareil pour Stéphane Moreau.
Un attaquant, les attaquants sont rares.
Les attaquants sont rares, ouais. Surtout le profil Matuti qu'on a de nouveau perdu, c'est-à-dire le type qui prend la profondeur, qui fait des appels pendant tout le match.
Je pense qu'après on prend la liste chômeur UNFP, on a quoi trouver des bons joueurs. Hein.
Mais tous les mecs qui vont signer à Strasbourg parce que c'est Strasbourg, mais ce qui est marrant, c'est encore, malgré tout ce qu'on a connu.
Faut un coach aussi. Hein.
Le coach, ouais. Mais
François Keller, est-ce que c'est la logique, est-ce que c'est la meilleure solution?
Juste pour terminer sur les joueurs, après on passera au niveau du coach, mais ce qui est marrant, c'est que certains joueurs actuels de l'effectif se sont prêts à rester à Strasbourg parce que c'est Strasbourg, quoi.
Ouais.
Malgré toutes les...
Et puis parce qu'ils sont
et parce que c'est plus Hilali, surtout.
Et parce que c'est plus Hilali.
Parce que finalement, il y en a très peu qui sont partis.
Ouais,
il y a Gürtner, il y a Matluti, on a...
Ketkeo.
Peugeot.
Ah oui, Peugeot a signé à Reims, effectivement. Belch, il est toujours là.
Belch est parti.
Metz.
Ça faisait quand même 5 ou 6 joueurs qui ont joué un rôle très important en fin de saison.
Ouais, mais après, c'est
la même. Belch, il a signé.
Metz, ouais. Non mais moi je pense que le Racing Club de Strasbourg ça reste un label qui attire des joueurs.
Bah surtout dans le milieu des joueurs de troisième zone, qui est celui qu'on vise concrètement. Ouais. Deuxième zone avec Noro quoi. Ouais. C'est sûr que.
Noro est pas parti, et des joueurs comme ça qui sont. Ouais,
bah Noro, ils sont pas partis, mais ils sont pas sous contrat, hein, donc les types il va falloir aller les chercher aussi. Hein.
C'est sûr. En tout cas, c'est pas facile, mais
ouais, bon, c'est pour ça que la journée de demain va être très importante également.
Tout reste conditionné évidemment à cette histoire de revente. Par rapport au coach, alors on a entendu parler de Alain Giresse.
Ça me fait pas rêver.
Moi non plus. J'avoue qu'en tant que joueur, c'était un grand.
Bah, en 82, il nous a tous fait rêver. Voilà, quoique, je sais pas si vous étiez né en 82.
84 aussi. Hein.
Tout juste.
Donc, moi, il m'a fait rêver en 82. Hein,
bah, en tant qu'entraîneur.
J'avais suivi là, avec assiduité la Coupe du Monde en Espagne. Mais
je sais pas, hein, peut-être consensus rapide. Ça lui fait rêver Alain Giresse ?
Non. Pas du tout.
Non. Donc Alain Giresse, Monsieur Greff, non. Ensuite, peut-être qu'il écoute, hein, ouais. Peut-être écouter. Il y avait François Keller comme rumeur.
Mais comme adjoint.
Comme adjoint, parce qu'il n'a pas les diplômes.
Oui, mais comme,
Comme principal, mais
à la Grèce, parce qu'il
avait un prête-nom.
Limite d'âge ou prête-nom, c'était Jeannin.
Ouais, mais après, si c'est pour le virer au bout de deux mois et puis mettre un Jeannin à la place.
Et attends, et tu récupères un mec avec un DEPF, est-ce qu'il va vouloir être juste prête-nom de... Bah Noël Tosi, oui, il voudra bien être prête-nom, mais est-ce qu'on a envie d'avoir Noël Tosi au club?
Bah, il écrira des romans sur Racing. C'est parfait.
Mais c'est quoi son background déjà, Noël Tosi?
Alors Noël Tosi,
il a des romans policiers.
Et Noël Tosi, il a quand même une règle de la FIFA qui a été changée à cause de lui, quoi.
Ah bon?
Oui, c'est la fameuse règle sur les binationaux où les types peuvent changer de sélection. Même s'ils ont fait en espoir, ils peuvent jouer en A, enfin celle qui a posé plein de problèmes à propos de l'équipe de France.
Avec l'histoire des quotas, ouais.
La FIFA a quand même fini par mettre une limite par rapport à ça, c'est qu'il faut quand même que les mecs aient un passeport du pays en question, du deuxième pays en question, quand même un bout de temps avant qu'ils se mettent à jouer pour le pays. Parce que Noël Tosi, ce qu'il faisait, c'est qu'il faisait venir des mecs de France quand il était sélectionneur de Mauritanie. Le jour même, il leur filait un passeport et les mecs, ils jouaient en sélection nationale de Mauritanie. Alors que, pour le coup, il n'y avait même pas un arrière-grand-oncle qui était mauritanien. Quoi.
Ouais, c'était des Africains, quoi.
Donc il y a une règle aussi, quoi. Il y a une règle Tosi à la
FIFA. Tosi, il a été sélectionneur de Mauritanie, quoi.
Et moi,
Mais il a entraîné qui encore, Tosi?
Bah, Nîmes cette année.
Qui descend,
qui descend. Hein.
Ouais.
Vous savez, l'idée géniale que j'ai eue, c'est rappeler Pascal Jeannin. Non mais, franchement...
Avec le rire sardonique.
Non mais, sérieusement, je vais vous expliquer très sérieusement pourquoi je pense que ce serait une bonne chose. François Keller, entraîneur principal, bon certes, avec le prête-nom que serait Pascal Jeannin. Pascal Jeannin, bon, un caractère qui a priori pas forcément très fantasque.
Ah, c'est pas Paul Pot, hein, ça.
Voilà, c'est pas Paul Pot.
C'est ce qu'on disait à l'époque de Robert Rue, c'était même avec un couteau entre les dents, il fait plus penser à Grincheux qu'à Staline.
Bon. Ah, Pol Pot avait un caractère très affable, il paraît que c'était quelqu'un de charmant en société. Hein.
Bon, Pascal Jeannin, tu prends Pascal Jeannin, tu offres un emploi, il est content d'avoir un emploi, il est adjoint... Bon.
Il fait quoi, Jeannin?
Ouais, qu'est-ce qu'il fait là?
Il vient voir le Racing.
Rien.
Il est toujours à Strasbourg.
Ouais.
Il est au match. Hein.
Recruter Pascal Jeannin, ça a trois intérêts. Bah, d'une part, il permet à François Keller d'être l'entraîneur.
Ouais, t'as pas d'autres des conneries comme ça.
Deux, attends, je termine. Deux, c'est pas un caractère impétueux qui va foutre la merde, donc au moins on n'aura pas un gars qui voudra être... qui voudra prendre la place de...
Du coach
désigné comme coach.
Ça, tu veux vraiment rappeler Pascal Jeannin, toi,
mais... et troisième intérêt de rappeler Pascal Jeannin, c'est que ça permettrait d'arranger le litige qui oppose le RCS
à Jeannin. Ouais, c'est pas fou.
Voilà.
Ouais,
ça a trois intérêts, et moi je suis désolé, je pense.
Et si François Keller, il se barre au bout de deux mois, on serait Pascal Jeannin jusqu'à la fin de la saison.
On peut recruter...
Attends, c'est quand même le mec qui nous fait descendre en national, Jeannin.
Mais non, mais faut... dans quel contexte?
Oui, mais
dans quel contexte?
Je suis persuadé, on a Fournier, on a Fournier il y a deux saisons, on descend pas.
Bien sûr, on a Fournier, mais on a peut-être 70% des autres coachs qu'on aurait pu avoir, on descend avec tous les autres coachs.
Je pense pas.
Je pense que c'est pas Jeannin.
Je pense qu'il est mauvais, Jeannin.
Oui, peut-être pas super bon. Bah justement, c'est pour ça que je le propose en tant qu'adjoint qui.
Moi, l'image de
Jeannin. Ah,
tu sais tu sais ce que c'est l'image de Jeannin que je garde? Moi c'est le match, le dernier match Châteauroux, moi j'étais devant, j'étais pas à Châteauroux, j'étais devant la télé, dans, bah, je crois que t'étais là, McCarthy avec Houdin notamment qui était là, et je vois on est dans les arrêts de jeu, faut marquer deux buts, et là il y a Jeannin qui se lève de son bord, qui se met à gueuler quoi. Alors que c'est foutu, là, on est tous, tout le monde qui est en train de chialer, et lui, puis il y a le commentateur, oui regardez Pascal Jeannin qui y croit encore. Ah et moi je crois que j'ai gueulé dans
ah tout le monde.
C'est là que tu te lèves, espèce de connard.
Jeannin, un tour, il a reconnu qu'il s'était trompé et c'est quelqu'un de bien, Jeannin.
Non, mais humainement, c'est quelqu'un de très
bien. Oh, après, qu'il soit très gentil, ça.
Voilà. Moi, je l'invite tout à fait pour faire une belote quand il veut.
Mais non, mais c'est vrai. Mais franchement, là, je vous soumets ma proposition. On prend Jeannin, coach, avec.
Gilbert Jeannin s'en prend.
Non.
Gilbert Grasse en pompe
d'un gars. Ce qui serait encore mieux, c'est qu'on reprenne Chilas. Et si Chilas accepte,
non, mais s'il te plaît,
Bah Gilbert, non, d'accord.
J'ai une contre-proposition à te faire.
Ah,
un autre type, ancien gardien du Racing qui nous a quitté il n'y a pas si longtemps que ça.
Ah, Vincent.
Alex Vincent.
Ah ouais, c'est le bon.
Il a le diplôme, lui.
Il a le diplôme, mais il a l'équivalent slovaque du DUPF.
D'accord.
Ça il est toujours à Strasbourg.
Et l'équivalent, ça marche?
Oui, ça marche. Ouais. Ouais. Bah, Azek l'avait à l'époque.
Ouais, bah moi je suis pour. Vincel, c'est
bon. Là, François Keller serait adjoint, mais en même temps, je pense que les deux s'entendent pas trop.
Ouais, ouais. Vincel, Keller. Vincel,
Keller.
Ah bah, c'est mieux, fallait dire tout de suite. Ça
me paraît plus sérieux.
T'étais sur le morse, alors.
Mais ça, vous aurait épargné 10 minutes de débat. Ça nous aurait épargné 10 minutes de débat autour de Pascal Jeannin.
Ça nous aurait épargné ta cour.
Mais non, c'est une bonne idée. Moi, je pense que c'est une bonne idée quand même.
Non, mais voilà. Par contre, je suis plus enthousiaste pour l'idée.
Mais moi aussi, maintenant qu'il l'a énoncé, tu vois, moi j'ai des idées, mais je suis pas parfait. Hein.
C'est bon, enfin, Vincel, à l'époque, je crois que quand il était à peine avoir été parti, il avait dit, si on lui avait proposé le poste d'entraîneur du Racing à la place de Fournier, il l'aurait accepté.
On passe la dernière rubrique de cette émission, bah, la Fédération des supporters, hein, qui continue de vivre, d'exister, qui a passé un an dans la joie et la bonne humeur. Un
gros et la chemise hein. Meurtrie de Strotti.
La chemise, voilà.
On a sacrifié Strotti.
C'était cette journée du 12 juin, si je ne m'abuse, ou alors c'était pas le 12 juin, si c'est le 12 juin. Le tournoi des supporters, suivi du match des anciens. Une grande journée en perspective, il y a quand même eu la bagatelle de 800 personnes environ hein, pour le match des anciens. Alors déjà, le tournoi des supporters, il y avait une équipe Punk Gothic, il y avait une équipe Fédération des supporters.
Il y avait surtout une équipe Racing Stub qui a gagné le tournoi.
Hein. Une équipe RacingStub.com qui a gagné le tournoi avec des jeunes hein, qu'on ne connaissait pas, mais qui était très fringant, hein, qui ont battu les Punk Gothic 1-0. Hein, d'ailleurs, c'était leur meilleur, leur plus mauvais match.
KCB.
Et ils ont perdu contre le KCB. Voilà, non mais un mot sur cette journée, la Fédération des supporters. Ça montre qu'il y a encore quand même malgré tout une vie au Racing, indépendamment de tout ce qui se passe en dehors dans les coulisses, les supporters sont là quoi.
Bah déjà un grand bravo aux gens qui, aux bénévoles qui se sont cassés le cul pour organiser cet événement-là. Parce qu'on sait tous ce qu'il y a derrière et le boulot que ça peut représenter. Et pour l'image de la Fédé, je pense que c'était la meilleure vitrine possible, montrer qu'on est des interlocuteurs ou que la Fédération en tout cas est un interlocuteur crédible pour la suite, pour réorganiser ce type d'événement, pour fédérer les anciens, etc. Donc ça, chapeau bas.
Ouais, bah, un peu pareil, hein. Je pense que ça a été un magnifique événement. Ça a été quand même très dur à un moment au niveau de l'organisation, ils ont eu le mérite de toujours y croire. C'est pas facile quand t'es sur un projet comme ça qui dure 12 mois et que t'as forcément des moments où c'est pourri, tu te dis que tu vas pas y arriver. Je pense qu'ils sont restés quand même soudés, ils y ont toujours cru et au final ils ont été quand même pas mal récompensés parce que c'était une belle journée quoi.
Faut voir le côté bien sûr, l'envers du décor avec toute la difficulté d'appeler les gens, de trouver des partenaires, enfin tout le côté que finalement. On voit pas forcément comme ça quand on vient juste au match, mais ça a été très dur, ouais. C'est rien que pour contacter tous les anciens joueurs, il y a eu 200 contacts, hein, plus de 200 contacts. Au final, on a eu évidemment qu'une minorité qui ont répondu, mais néanmoins des gens bah, comme Stéphane Collet, des anciens, Lucien Schaeffer, des gens comme ça, François Remeter.
Des gens alors de toutes les générations.
Peter Reichert. Ouais.
Des gens de toutes les générations et qui ont... Il y avait des gens qui avaient de tous les titres que le RCS a gagné.
Ouais.
Y compris même les titres de champion de D2. Il y avait les champions de D2 88 et
et 77. Donc c'est ça pour le coup, c'était vraiment réussi, parce que depuis la Coupe de France 51 jusqu'à la Coupe de la Ligue 2005, il y avait tous les titres, il y avait un joueur qui avait au moins gagné un de ses titres à chaque fois. Quoi. Et ça c'est un beau trait d'union, je trouve.
C'est un bon condensé de cette histoire du Racing, qui est très riche hein, quand on compare à beaucoup d'autres clubs français, certes peut-être actuellement en Ligue 1, mais qui n'ont pas gagné ce que le Racing a gagné. Le Racing, c'est 55 saisons en D1, c'est un club exceptionnel au niveau français.
Un club mythique,
c'est un club de tradition. Et enfin vraiment ça en jette de savoir qu'on a eu ça quoi. Enfin c'était une belle journée, ça a été sympa, on est à 1h23. Hein, ah, ouais. Je sais pas si vous voulez continuer jusqu'à 3h.
Non, on a un quiz dictateur à faire.
Dictateur, c'est-à-dire que Colomb va quitter le studio Colomb pour aller au quiz dictateur, au même studio Colomb.
Dans sa cuisine.
Dans sa cuisine.
Dans ma cuisine.
Parce que le quiz aura lieu dans la cuisine de Conan.
Voilà, tout à fait.
Parce que Conan, voilà, qui doit...
Avec les couteaux de cuisine.
Avec les couteaux de cuisine, voilà, tout
à fait. Les haches de boucher.
Tout à fait, le couteau entre les dents, il sera là. Il l'aura, hein, le couteau entre les dents. Un petit mot pour conclure peut-être sur la Fédé, le Racing, tout simplement. Enfin, je conclue peut-être un peu brutalement, mais c'est vrai que c'est...
Bah, peut-être juste pour prendre le contre-pied d'une déclaration de mon grand ami Jackie Kins, il a dit cette semaine dans la presse, faut bien se rendre compte que si Greff n'avait pas repris, il n'y aurait eu rien. Eh ben, moi, je suis pas d'accord, même si Greff n'avait pas repris, quoi qu'on pense de cette reprise, il y aurait toujours eu quelque chose, il y aurait toujours eu un club, il y aurait toujours eu un public, il y aurait toujours eu des supporters. C'est peut-être pas le plus important, mais c'est la base.
Moi, ce que j'avais toujours dit, c'est n'y a pas de mort du Racing. Tous les gens qui parlaient de RIP, Racing, le Racing, faut débrancher le truc, là,
le respirateur,
voilà. Mais non, mais c'est des conneries, ça, parce que tu peux faire ce que tu veux, le Racing aurait vécu, aurait survécu, et puis voilà, hein. De toute façon, il y aurait eu un autre club, un Racing, mais sous une autre forme, quoi, tout simplement, quoi. Mmh. Oudin ?
Non, je rêve d'un Radio Shtoub où on ne prononcera plus le mot de Jafar Ilali.
Bon, on l'a pas prononcé beaucoup.
Hein. Ah, vrai, hein.
Je pense que si on compare au Radio Shtoub précédent, on a moins de Jafar. De toute façon, on n'a rien à fiche.
De toute façon, dans 3 mois, on n'en parle plus de Jafar.
Mais ouais.
On n'en parlera plus.
Le magazine Valley de la Finance.
Si de temps en temps, comme aujourd'hui, là, il y a voilà, genre un pun qui nous parle de Jeannin, truc. Jeannin, ça fait un an qu'on n'en a pas parlé. Ben Jafar, c'est pareil, c'est un mec, dans 2 ans, on l'aura tous oublié.
Tant qu'on n'oublie pas Gilbert Grès, voilà, c'était Radio Shtoub. Merci de nous avoir suivis, et à bientôt, et surtout,
allez.